Michel Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benjamin.
Bonjour Raphaël.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Benjamin Joff, partenaire chez SOSV, un fonds d'investissement. Tu vas nous raconter tout ça en détail dans un instant, mais donc pour t'introduire de manière un peu plus large. Déjà, on se connaît, on s'est croisé à plusieurs reprises, donc tu as une grosse expérience dans l'univers des startups hardware, et maintenant oui. Tu fais même plus que ça. On s'est croisé une ou deux fois à Shenzhen, la capitale mondiale du hardware, et même en Estonie, je ne sais pas si tu te souviens, un peu plus exotique que Shenzhen.
Oh, ah oui, attends, c'était à l'occasion de...
On était sur un gros événement dans la capitale de l'Estonie, Tallinn.
À Tallinn ?
Exact, mais bon...
Ah, ça doit faire quelques années.
Alors. Ouais, ouais. Ouais. Donc, tu as un profil qui colle vraiment avec ce podcast. Tu as une expérience extrêmement riche du Japon à la Chine et même, j'imagine, sur le reste de l'Asie et le reste du monde. J'ai compté sur ton profil LinkedIn 23 expériences, tout de même.
Ah.
Donc, on va pas avoir le temps de parler tout. Il faudra que tu nous guides sur ce qui est le plus intéressant. Ça commence donc dans des grosses entreprises au Japon, comme tu as bossé chez Orange au Japon. Mm-hmm. Je crois que tu étais à ton propre compte, tu es investisseur, tu as fait mm-hmm. donc du seed, un investissement en tant que business angel dans pas mal de startups. Mm-hmm. Tu as collaboré avec plusieurs accélérateurs avant de rejoindre Axe et SOSV. Tu contribues à des médias de référence, TechCrunch, Forbes. Tu donnes des cours dans des universités prestigieuses, de la Californie jusqu'à Polytechnique. Tu es CCE, conseiller du commerce extérieur pour la France, et bien plus encore. Donc voilà, c'est beaucoup de choses.
Effectivement.
Mais pour commencer, donc ma première question, qu'est-ce qui t'a fait venir en Asie? Quelles sont tes premières impressions? Le choc culturel? Ça commence à remonter, dis-nous, c'était quand?
Ouais. Ah oui, oui. Alors, moi, j'ai déménagé à Tokyo d'abord, en 2000. Donc ça fait 20 ans. Waouh. Alors, pourquoi l'Asie? Moi, j'ai fait un parcours assez classique d'ingénieur, prépa, grandes écoles. Et arrivé en école d'ingénieur, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de faire des choses un peu nouvelles, un peu différentes. Et je m'intéressais, j'aime bien les langues étrangères. J'avais appris l'anglais, je me débrouillais pas mal, l'espagnol.
Et ça fait Central Lyon, c'est ça?
Voilà, Central Lyon. Et à Central Lyon, il y avait la possibilité de prendre des cours de d'autres langues. Il y avait le russe, l'italien, l'espagnol, l'anglais, tout ça. Mais il y avait aussi japonais et chinois. Et j'hésitais un peu entre japonais et chinois. Et la prof de japonais déjà était japonaise et a fait un meilleur pitch que le prof de chinois. Et j'ai trouvé que c'était plus intéressant d'avoir un prof natif. Je connaissais pas énormément grand chose de l'Asie. Je suis même pas sûr qu'à cette époque-là, j'avais bien compris que la plupart des dessins animés de mon enfance étaient faits au Japon. Voilà. Donc j'ai aussi deux amis qui voulaient se mettre au japonais. Donc c'est dit bah tiens, on va tous faire ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un stage au Japon pendant mon école où j'ai travaillé dans une boîte japonaise qui s'appelle Ishikawajima Harima Kogyo. Donc c'est Ishikawajima Harima Heavy Industries, qui font des super tankers.
D'accord.
Et j'étais ingénieur, je faisais des modèles de,
d'éléments de fusée. Avant l'an 2000 déjà.
Ouais. Oui, c'était en 98 ça.
D'accord. Okay.
98, donc ça c'était mon premier voyage en Asie.
Tu fais plus jeune que ton âge, je pense. Je l'ai découvert en relisant ta biographie.
Bonne santé. Ah ouais, non, je suis pas tout jeune, j'avais 43 ans là.
D'accord.
Quand même. Hein. Voilà, bonne santé, et puis je donnerai mes secrets de beauté peut-être à la fin.
Et donc t'es arrivé au Japon
Alors j'arrive au Japon, d'abord j'y vais en stage, ça me plaît bien, et je me dis que quand je suis au Japon, je me sens plus dynamique, plus curieux, plus intéressé par ce qui se passe, et puis assez surpris par pas mal de choses. Et donc en terminant mes études, à l'époque, fallait encore faire une coopération service national. Je me dis voilà, faire troupier c'est pas le plus marrant, il y a scientifique du contingent, ça se fait aussi, et coopérant ça paraît pas mal, et donc je cherche une coopération au Japon,
Donc l'équivalent du VIE actuel.
Voilà, l'équivalent de VIE actuel. Je termine mes études. À ce moment-là, j'hésitais un peu à aller dans l'industrie. Je travaille chez Airbus pour faire mon stage de fin d'études sur le A3XX à l'époque, maintenant ensuite appelé A380 et maintenant mis à la retraite. Donc, tu vois, c'est une génération d'avions. Je travaille sur des boulots d'ingénieur de bureau d'études. Je trouve que la vie est sympathique, mais pas très excitante. À Toulouse, il fait beau. Il y a le magret de canard sur les pentes de pêche David et le muscat. Mais finalement, je me dis que ce serait quand même assez sympa de repartir au Japon et vraiment j'avais étudié le japonais donc pendant 3 ans à l'école centrale. Et donc, je cherche une boîte qui me permet de repartir. Je trouve une boîte qui fait de la veille techno sur différents secteurs, une petite société française qui était basée là-bas.
JTEX, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et
ça, c'était ton veilleur.
C'était mon veilleur.
Ok, ouais. Très bien.
Voilà, donc je repars avec eux.
On a tous commencé avec des veilleux en Asie, hein. C'est quand même un programme.
C'est une bonne façon d'aller un peu voir comment ça se passe, quoi.
Veilleux, grosse entreprise française en Asie, puis enchaîné avec des expériences diverses et variées. On est assez nombreux sur ce schéma-là.
Disons que c'est plus facile probablement d'aller en veilleux dans une petite boîte parce que en plus c'est assez, t'as plus d'autonomie, il y a plus de choses, t'es plus exposé. Donc moi j'ai trouvé ça, j'ai aussi un peu renforcé mon japonais à l'INALCO avant d'y aller, donc j'ai passé un test de japonais de niveau pas trop mal, c'est le Nihongo no Ryokushiken Nikyu, donc c'est quand même assez correct.
Tu fais deux avec les doigts pour...
Voilà, deux.
Ni, c'est ça mon Ni. Japonais, c'est très basique. Mais...
C'est le niveau 2, et donc je suis parti au Japon, j'ai fait mon VIE, mon CSNE à l'époque, j'ai trouvé que c'était sympa, puis bon, au bout d'un, tu passes un an et demi, j'avais pas très envie de rester dans cette boîte-là, parce qu'on touchait des tas de sujets, j'avais envie de me concentrer un peu.
Et à ce moment-là, t'étais à Tokyo à l'époque.
J'étais à Tokyo. Ouais. Okay. C'était le boom du mobile et du télécom. Le Japon était énormément en avance.
Comme une bonne expérience, même au niveau perso, d'arriver tout jeune comme ça au Japon.
Ouais, j'avais 23 ans. C'était sympa. J'ai retrouvé j'ai fait quelques amis français, des collègues avec qui je suis devenu ami aussi. D'ailleurs, un peu plus tard, paradoxalement, pas trop pendant le boulot. Et puis, à l'époque, t'avais les nightclubs, les bars, les restos, un peu de voyage ici et là, même si tu roules pas forcément sur l'or quand tu démarres. Puis je démarre aussi.
Il fallait aller en Chine.
Des arts martiaux.
J'ai fait mon VIE en Chine et on avait l'impression d'être riche.
Au Japon c'est un petit peu différent, mais bon, je pense qu'on est mieux payé en VSN au Japon.
Ouais.
Le coût de la vie est cher, ouais. Mais bon, quand t'es jeune,
une seconde sur le sujet des langues là. Donc ouais. Tu nous as déjà parlé donc du japonais, du chinois. Est-ce que t'avais pas fait un peu de coréen?
Alors oui, j'ai fait ça aussi.
Ça m'intéresse. Quelqu'un comme toi qui a appris plusieurs langues asiatiques.
Ouais.
Quelle est ton expérience d'apprentissage de ces langues? Lequel est le plus dur? Question assez basique entre le japonais et le chinois. C'est une question basique, mais c'est pas si facile de répondre. Et comment tu les as utilisés professionnellement?
Alors, le japonais, donc je suis arrivé, je me débrouillais correctement, mais pas fou, mais j'ai continué à apprendre sur place avec des profs particuliers. J'ai progressé. Aussi, moi, mon approche, enfin, une des façons pour apprendre plus vite, j'essaie de faire des activités avec des gens locaux. Je me suis inscrit dans un dojo d'arts martiaux qui était près de chez moi, et donc avec pratiquement que des Japonais. Et donc ça permet d'interagir de façon un peu plus informelle dans un contexte où on est tous à faire un truc ensemble. Donc voilà, moi j'ai fait du karaté quand j'étais au lycée. Ensuite, au Japon, j'ai fait du Shorinji Kenpo, j'ai fait un peu d'aïkido, j'ai fait différents autres trucs. Je fais pas mal d'arts martiaux, en fait, à travers les années, j'aime bien ça, sans forcément atteindre un niveau exceptionnel, tu vois, ma carrière phénoménale. Mais bon, ça m'amuse bien, même en ce moment, j'en fais toujours, je fais autre chose, mais parce que mes goûts un peu ont évolué. Donc Japon. Ensuite, comme t'as dit, j'ai rejoint, après la boîte de conseil,
T'as pas répondu, hein, le japonais et le chinois, là.
J'y viens.
Parce que faut. Je suis tenace dans mes questions.
Ouais, non, c'est une bonne question, mais je vais suivre le parcours. Après la boîte de conseil, j'ai rejoint Orange au Japon. C'était France Télécom R&D à l'époque. Plutôt sur des aspects études de marché, parce que je m'étais déjà orienté plutôt vers la stratégie que vers l'ingénierie. J'ai travaillé là-dedans, donc, comprendre le business des innovations dans le mobile, dans le télécom. Ça m'a amené en Corée. à faire des business trips. J'ai trouvé que la Corée avait une bonne énergie, plus entrepreneuriale que le Japon. Et donc après 2 ans chez France Télécom, les choses commençaient un peu à se tasser. Il y avait un peu une crise dans les télécoms avec les licences 3G et tout ça. Enfin, bon, c'était une affaire. Je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour faire autre chose. J'avais trouvé que la Corée avait de l'énergie. J'ai trouvé un programme de la Commission européenne qui s'appelait le ETP, Executive Training Programme, ou European Training Programme, qui formait des cadres pour aider à faire du business entre l'Europe et au début le Japon. Et il venait de démarrer peu de temps avant un programme sur la Corée.
Oui, tout à fait.
Et donc, j'ai fait candidature pour ça avec une start-up française qui faisait des jeux vidéo géolocalisés. C'était Pokémon Go, avant Pokémon Go, en 2003. 2003-2004. C'était vraiment un truc très, très pionnier. Je les ai convaincus de dire, bah voilà, oui, ça vaut le coup de regarder Japon-Corée et tout ça. Et donc, je suis parti en Corée en 2004, en plein hiver, pour suivre donc des cours de langue, des cours de business et aider cette start-up à essayer de développer son business là-bas. Donc, je suis resté en Corée pratiquement 1 an. Alors l'avantage, ouais, tu parlais des langues. Donc, le japonais, phonétiquement, c'est pas compliqué, mais grammaticalement, c'est compliqué. Il y a pas mal de nuances. Donc je pense que c'est et puis bon, t'as évidemment tous les caractères chinois en commun, enfin quasiment. Donc à écrire et à lire, c'est un peu compliqué, bien sûr. Prononcer pas trop. Bon, au début, je trouvais que ça ressemblait à l'espagnol.
Donc
Voilà.
t'avais fait du chinois déjà là ou
Non,
pas encore,
c'est
d'accord. Donc
après.
t'as commencé les caractères chinois par le japonais, très
J'ai
bien.
commencé, ouais, à 19 ans, j'ai tracé mon premier caractère chinois à l'école centrale. Et puis j'ai avancé peu à peu. En Corée, alors c'est plus simple parce que là, pour le coup, l'alphabet coréen, c'est génial, hein, c'est vraiment une
Ça
invention
prend quelques
phénoménale.
heures, ouais. Qui a lui
C'est
aussi remplacé les caractères chinois historiquement qui
ouais,
étaient utilisés
absolument.
en Corée.
Non, c'est le seul alphabet, je pense, créé à l'échelle de façon scientifique. Hein. Il y a un aspect morpho-syntaxique dans la façon dont les lettres ont été créées. Donc, elles ont une logique en fait, une logique interne qui est très très supérieure à tout ce qui existe. Si tout le monde utilisait le Hangul, donc l'alphabet coréen, on pourrait alphabétiser la planète en une journée. C'est pas une blague, hein. Mais
D'accord.
évidemment, comme on a tout un héritage culturo-linguistique qui fait frein, personne s'en sert. Mais c'est assez phénoménal, c'est assez marrant. Donc ça m'avait bien plu, ça aussi. Je sais pas, j'ai peut-être un petit côté linguiste amateur. Donc j'avais bien aimé ça, j'aimais bien l'énergie entrepreneuriale. Mais bon, au bout d'un an là-bas, je me suis aperçu que les startups quand même galéraient pas mal parce qu'il y avait un gros plafond de verre avec les grosses boîtes genre Hyundai, LG. Et compagnie, SK, enfin en gros les grands groupes. Il y avait un petit peu des blagues sur l'entrepreneuriat coréen aussi. Pourquoi il n'y a pas de Bill Gates? Pourquoi il n'y a pas Steve Jobs? Il n'y a pas de Bill Gates parce que si tu arrêtes ton université, il faut aller à l'armée pendant 2 ans. Il n'y a pas de Steve Jobs parce que si tu fais banqueroute avec ta première start-up, il faut bosser chez Samsung pendant 20 ans pour payer tes dettes.
D'accord.
Voilà, donc c'était un peu les blagues de l'époque. Mais il y a quand même quelques belles startups qui se sont formées, mais bon, c'était très quand même monoculturel, très homogène et un peu fermé quand même la Corée, je dois dire. Même si dans mon domaine, les gens étaient quand même plus sympas, plus ouverts. Corée, d'ailleurs, j'en ai profité pour faire du Hapkido, variante locale de l'aïkido et du mélange du karaté.
D'accord.
C'est assez marrant avec des Coréens. Et suite à ça, je me suis un peu posé la question. Donc à ce moment-là, donc j'étais parti d'Orange. La start-up avançait gentiment, mais pas super bien. Et je me suis un peu demandé ce que j'allais faire. Est-ce que je rentrais en France? Que je repartais au Japon? Est-ce que je faisais MBA ou autre chose? Est-ce que j'allais aux États-Unis? Et je me suis dit, bon, bah voilà, Japon, Corée, suite logique, Chine. Et j'ai décidé de partir en Chine à l'hiver 2005. Encore un hiver très froid, je sais pas comment je les ai choisis, mais je suis arrivé à Pékin. Je
Les hivers sont
connaissais.
souvent froids à Pékin. Moi, j'ai
Ouais, mais
connu
là,
du
c'était.
moins 20,
Ça
pire
piquait,
que ça.
là.
Moins 20, c'est dur.
Il faisait très très froid et je connaissais personne et pas un mot de chinois.
Ah.
Mais je m'étais mieux préparé que j'avais un peu réfléchi mon truc et je m'étais inscrit dans une université, donc le Beijing Yuan Shuiyuan, le Beijing Language and Culture University, BLCU. Je me suis aperçu que Awkwafina, qui joue dans Crazy Rich Asians et dans The Farewell,
Ouais.
a aussi été à la BLCU. Donc,
D'accord, comme
voilà,
quoi.
comme quoi, célébrité. Donc c'était des cours de langue un peu peut-être trop classiques, un peu scolaires. C'était plutôt pour calibrer pour des jeunes très scolaires.
Ouais, moi qui ai eu la chance de faire à la fois du chinois en Chine et à Taïwan, c'est vrai que c'était plus sympa à Taïwan, quoi. Les cours un peu
je pense que mon chinois serait meilleur si j'ai commencé par Taïwan. Mais bon, ça c'est autre chose. Peut-être que j'aurais probablement pas eu la vie que j'ai eue aussi. Donc j'ai fait ça. J'ai un peu aussi étudié dans une autre école. C'était le Tichutsun Shueisha près de Huaqin Jiayuan et Budaoko Ditiejiang, près de la station de Budaoko.
Le quartier des étudiants de Pékin.
Voilà, non, c'est ça, très ça, coréen
ça,
d'ailleurs.
Ça rappelle des vieux souvenirs.
Voilà, qui a beaucoup changé, je suis pas beaucoup retourné depuis, je dois dire. Donc j'arrive et je me dis je vais rester 6 mois, faire un peu de chinois, voir un peu ce qui se passe. Et en fait assez rapidement je connecte avec quelques personnes dans la tech. Je m'aperçois qu'il y a pas beaucoup d'étrangers dans la tech, que c'est pas simple de faire du réseau. Et donc à ce moment-là, je faisais déjà un peu des missions de conseil, d'études de marché, de stratégie, parce que le Japon et la Corée, où j'avais passé du temps, étaient très en avance au niveau technologique, notamment le service mobile. Et donc beaucoup de boîtes dans le monde se disaient, ils sont en avance de phase, si on regarde ce qui se passe, ça nous donne des idées sur ce qui va marcher ailleurs. Mmh. Ça s'est un peu vérifié, mais pas vraiment complètement, les rapports de force entre opérateurs et fabricants de mobiles étant ce qu'ils sont, et puis l'environnement d'innovation est pas forcément mal non plus. Mais bon.
Spécialisé sur le secteur telco.
Ouais, mobile, plutôt telco, ouais. Service mobile, service internet. D'accord. Donc je faisais un peu du conseil là-dessus. Pékin, je continue de faire ça donc depuis Pékin, et je commence à avoir de plus en plus de demandes et des demandes sur la Chine. Et donc d'un côté, je vois qu'il y a une demande de conseil. Je vois que j'arrive pas à y forcément répondre tout seul parce que je faisais un peu d'autres choses ou j'avais pas forcément toutes les connaissances ou le temps pour tout faire. Et là, je commence à trouver des gens pour travailler avec moi et donc je monte une société de conseil pour répondre à cette demande avec des consultants sur le Japon, la Corée et la Chine.
D'accord.
Et donc
qui s'appelait Plus 8 Star.
Voilà.
C'est ça. Okay.
Alors le nom était dérivé des codes pays. 81 le Japon, 82 la Corée, 86 la Chine.
Ah.
Voilà. Et c'était donc
c'est
un code téléphone,
un peu geek,
mais en même temps différenciant,
ouais.
Pas facile à prononcer. Mais en chinois c'était mieux, c'était Jiabashing Yoshenkongse.
Ouais,
ça passe un peu mieux.
Ouais.
Voilà, avec la couleur rouge aussi pour la chance. Bonne fortune. En même
le
temps,
le 8 et le rouge, quoi, tu cumulais.
Okay. Absolument, c'était quand même assez réfléchi. À ce moment-là, je m'aperçois que ce qui pourrait aider, serait de faire du réseau pour apprendre. Il y avait assez peu d'événements dans la tech, c'était plutôt par des grandes banques qui voulaient mettre en bourse des boîtes chinoises. C'était assez difficile d'être dans ces events-là, donc je me rappelle qu'à Tokyo, j'allais à un event de networking qui s'appelait Mobile Monday, où les gens se réunissaient pour parler de services mobiles, et qui avait démarré en Finlande, et je les contacte pour leur demander « tiens, est-ce que je peux pas le faire en Chine ?» Et à ce moment-là, j'étais encore un assez timide, et je me sentais pas trop d'être sur le devant de la scène. Je demande à des copains locaux, qui étaient plus dans la tech locale, s'ils peuvent pas m'aider, et dont un qui est un peu connu, qui s'appelle Kaiser Kuo, qui fait le podcast Cynica maintenant depuis pas mal de temps, qui était un type assez exceptionnel, qui a monté un des groupes de hard rock chinois, les premiers Tang Chao, Tang Dynasty, dans les années, je sais pas quoi, début 2000 ou années 90. Et il me dit, y a pas de problème, je peux faire le MC. Et puis au dernier moment, il me dit, non, désolé, en fait, mon boss aux États-Unis, on a un call et je peux pas.
Ah.
Et donc j'étais très stressé parce que je me retrouvais à faire le MC au pied levé.
Improvisé en plus. Ouais.
Improvisé. Enfin, je connaissais les sujets parce que c'était mon domaine, mais voilà.
Bon, c'est un exercice quoi.
Voilà, c'est il y a quand même une certaine. J'étais pas trop à l'aise au micro. Ça, les choses ont un peu changé. Bon, je me retrouve à faire ça. Je trouve que finalement ça se passe pas si mal que ça parce que bon, mon boulot c'était principalement de présenter les speakers, de poser une ou deux questions. C'était quand même pas. C'était les speakers qui faisaient les présentations. Je me retrouve embarqué là-dedans et en gros j'ai fait un event par mois pendant 4-5 ans. Donc j'ai fait beaucoup d'events, ça m'a amené à aussi être invité dans des events plus gros et peu à peu je me suis retrouvé speaker international et aujourd'hui j'ai probablement fait plus de 300 speeches à travers je crois 35 pays en partant de ce petit truc là quoi. Ça m'a aussi connecté.
Il y en a pas mal qui sont sur YouTube, si on veut voir un peu à quoi ça ressemble.
Ouais, j'ai quelques speeches qui sont un peu sympas, soit sur le hardware, donc ce qu'on fait chez Hax au niveau d'investissement chez SOSV, donc un peu la robotique, les innovations dans le domaine, soit d'autres sujets un peu variés. J'en ai un
le
peu marrant
deep
sur
tech
la culture.
Qui est sorti il y a pas si longtemps.
Ouais, la deep tech,
mois,
voilà,
hein,
c'est
qui ça. Est à la fois super intéressant. À la fois, on peut le trouver en PDF sur SlideShare.
Ouais, ouais, j'ai un dossier. Ouais.
Et à la fois sur YouTube.
Ouais. Ouais, j'ai fait une petite tournée dans différentes villes avec cette présentation. J'ai des speeches sur d'autres sujets, sur le cross-culturel, d'autres choses qui sont des choses un peu plus perso, mais qui m'intéressent. Donc ça m'a aussi fait du réseau et j'ai rencontré dans tes questions, tu avais les rencontres notables. Ben, j'ai eu, par exemple, le patron de Meituan qui est venu faire un speech de présentation de son projet.
D'accord.
À Mumbai Monday, au moment où il démarrait.
Au démarrage.
Voilà, au tout démarrage, quand il démarrait, donc un truc,
là,
un des milliers de groupes locaux.
Là, t'as pas investi, quoi.
Ben, j'ai pas investi, l'idée m'est pas venue, et puis c'était pas un serial successful guy, quoi. C'était un gars qui avait quand même planté plusieurs boîtes, hein. Il était spécialisé dans l'adaptation en Chine de concepts étrangers, donc il avait fait un Facebook local, un Twitter local, un friend feed local, c'était lui.
D'accord, ouais.
Et son Facebook avait pas mal marché en termes de users, mais en termes de monétisation, le modèle de pub marchait pas du tout. En Chine, donc il avait dû vendre un peu au fire sale à SoftBank d'ailleurs, à RenRen, enfin qui l'ont renommé RenRen, enfin des mecs qui connaissaient bien mieux en finance et en packaging, et qui à peu près un an après l'ont mis en bourse à plus d'un milliard.
D'accord. Ouais.
Donc quelque chose comme ça. Enfin, je me rappelle plus exactement le timing.
Meituan, tu peux rappeler.
Oui, Meituan, c'est le Groupon local en Chine. Au début, ils ont démarré comme des milliers de Groupon, donc c'était concurrence extrêmement féroce pour acquérir à la fois les utilisateurs qui voudraient donc payer pour les services ou les offres, et aussi les vendeurs, à qui au début les marges étaient assez importantes, mais avec la concurrence, les marges ont baissé et se sont retrouvés en dessous de 10% très vite en Chine. Donc ça, c'est un peu un petit caractéristique chinoise un peu spéciale, c'est que s'il y a peu de barrières à l'entrée, il y a énormément de gens qui se lancent et ça, en fait, ça détruit ou modifie le business model. Donc moi, j'ai
avec une concurrence démente et,
voilà. et par des gens très compétents aussi, hein, qui vont à toute vitesse.
Et les marges qui tombent, ça c'est.
Voilà, donc ça force. Pour moi, là, j'ai un peu un modèle cognitif là-dessus. C'est des idées d'écosystème vraiment. À la Darwin, quoi. C'est-à-dire le survival of the fittest et les mutations, en plus.
Ouais.
C'est-à-dire que t'es obligé de muter pour survivre. Par exemple, le modèle type Facebook, qui s'alimente, qui est un peu herbivore, on va dire, s'alimente sur de la pub, qui est souvent le modèle américain, marche pas en Chine pour la plupart des choses. Donc, c'est là où il y a eu les microtransactions, les choses comme ça, le Tencent avec la pub, les petites customisations et tout ça, qui, au final, qui sont un peu... comment on s'alimente quand il y a rien à manger, quoi. Donc tu deviens chasseur d'insectes quasiment à manger des petits trucs, et ça te rend très très résistant dans ton écosystème, et quelquefois ça donne naissance à des modèles qui s'adaptent très bien. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, il y a énormément de free to play, donc où le jeu est gratuit et tu achètes des petites customisations qu'on appelle, à un moment on appelait le modèle asiatique. La plupart des gens pensaient que ça marcherait pas ailleurs, et c'est le modèle dominant dans beaucoup beaucoup de jeux en ligne aujourd'hui, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, même si on remonte avant, même avec les DVD pirates qui étaient omniprésents, avant que le cinéma explose en Chine, les films devaient être face à la situation comment financer du cinéma dans un tel marché.
Oui, oui. Donc Chine, effectivement, c'était un problème pendant longtemps parce qu'il n'y avait pas de façon de monétiser. Bah, par exemple, j'en ai discuté avec Kaiser qui lui avait un groupe de rock. Hein, il disait les CD, ça rapporte rien. Les bootlegs sont mieux produits que nos CD à nous. Je disais, mais alors comment tu fais? Il dit, c'est les concerts, et le problème c'est que les concerts, t'es un peu payé au lance-pierre. Enfin bon, et finalement, ça m'avait fait réfléchir, je m'étais dit, dans un monde post-numérique, où tout est accessible, tout est pas cher et quasiment gratuit, finalement, le contenu, c'est le marketing pour une expérience. Et ça s'est assez vérifié, je dois dire, quand on regarde les prix des concerts, les prix des théâtres, les trucs comme ça. La chanson coûte rien, tu la streams sur Netflix, tu la trouves ailleurs, peu importe. Enfin, pardon, sur Spotify. Mais le concert coûte très très cher, parce que c'est une expérience unique et avec un aspect de rareté. Alors qu'avant, le prix d'un concert, c'était pas très loin le prix d'un CD, quoi. Et aujourd'hui, le CD disparaît, quoi. Donc il y a des aspects intéressants en termes un peu d'évolution et de transformation de business model dû aux contraintes des écosystèmes. Et à la commoditisation du contenu.
Ouais, tout à fait.
Donc, on parlait même de business model du podcast, et voilà, business model, c'est à moins que t'aies du volume, c'est pas la pub, quoi. C'est l'expertise et la notoriété. Voilà. Donc j'avance un peu sur tes questions. Tu avais dit voilà, Japon, Corée, Chine. Donc Chine, je monte un business de conseil. Ça se développe gentiment, ça me fait du réseau, je commence à être un peu connu. Je continue d'étudier un peu le chinois, mais malheureusement, assez vite, je mets un peu de côté. J'étais un peu fatigué aussi de l'étude de langue, après Japon et Corée.
On arrive vers 2010, là, c'est ça, la fin de Mobile Monday.
Voilà, donc à ce moment-là, 2010, je commence, même un peu avant, vers 2007, je fais mon premier angel investment dans une start-up. Avant que ce soit, c'était au moment où c'était juste au moment où ça commençait à devenir être un peu connu, un peu cool de faire de l'angel investment. Bon, je croyais au truc, le truc a pivoté assez vite vers du jeu vidéo qui moi m'intéressait moins, mais bon, j'aimais bien l'équipe et tout ça. Ça a évolué, ça a avancé, ils ont fait des tas de choses intéressantes. Au final, bon, ça c'est.
L'entreprise s'appelait comment ?
Elle s'appelait Simune.
D'accord.
Et ils ont fait un jeu au final. Au début, c'était pour faire des espaces collaboratifs. 3D dans le browser ou dans un client, et ensuite s'orienter vers le jeu vidéo qui avait un business model plus clair. Ils ont créé le plus gros jeu multijoueur de tir, first person shooter, dans le browser sur Facebook.
D'accord.
Un truc assez dingue.
C'était une entreprise qui était basée.
Qui était basée à Pékin. Qui était faite par un Français,
un
Australien. Bah, peut-être tu l'auras sur ton podcast, Ludovic Baudin. Tu pourras
d'accord.
Me
demander.
Qui est maintenant président de la French Tech à Pékin d'ailleurs.
Ouais, non, je connais le nom, mais ok.
Et ils ont fait des trucs assez dingues. D'ailleurs, avec un moteur de recherche, enfin non pas un moteur 3D qui à l'époque était tout jeune, qui s'appelait Unity, qui est devenu énorme maintenant, qui vaut des milliards. Ouais. Et il y a eu même une discussion à un moment de faire un share swap, donc faire des échanges d'actions entre les deux boîtes. Ça aurait peut-être été la meilleure opération qui n'a pas été faite. Voilà, petit. Comme tu vois, j'ai raté beaucoup d'opportunités, mais c'est en ratant beaucoup qu'on réussit. Voilà. Donc ça m'amène là. J'avance un peu. Je me retrouve assez intéressé à travailler avec des startups early stage. Je m'aperçois que le conseil, c'est pas très compatible avec ça. Parce que les startups early stage n'ont pas d'argent. Donc, je faisais parfois du conseil, même auprès de bois, de startups chinoises qui arrivaient au Série A, qui étaient un peu arrivées au bout de leur adaptation du modèle américain et se disaient, il nous faut une nouvelle dose d'idées pour faire des nouvelles adaptations. Donc, j'ai fait du conseil notamment auprès de boîtes qui faisaient du online dating, online matchmaking en Chine, en leur amenant des idées des marchés japonais et coréens, où c'était des choses différentes et en Corée notamment plus sophistiquées. Voilà, ça c'était un peu le conseil cross-border, c'était assez marrant.
Et c'était toujours ça, donc sous la
Classic Star, ouais.
Ok, d'accord, très bien.
Ensuite, je publie quelques dossiers pour me faire connaître, je fais des speeches, je mets des trucs en ligne sur SlideShare, et ça me fait connaître assez bien d'ailleurs. Il y a certains de mes dossiers qui ont eu des dizaines, parfois même des centaines de milliers de vues. Et donc ça m'amène une expertise sectorielle, Japon, Corée, Chine, sur ce qui se passe dans le numérique en gros. Donc je commence à être un peu plus actif au niveau start-up, ça m'intéresse, je passe un peu de temps à Silicon Valley. En 2008, je fais mon premier speech dans la Silicon Valley, invité par un investisseur là-bas, où j'explique, Facebook démarrait tout juste sur le mobile, il monétisait pas, et j'explique, en Chine, Japon, Corée, il y a des services internet et mobile qui monétisent avec autre chose que de la publicité, qui ont plein d'utilisateurs mobiles. Donc j'étais là, je présentais le monde Mobile First en 2008, quoi. Et je publie aussi un dossier sur Tencent, qui est donc le géant qu'on connaît maintenant en Chine. Mm-hmm. Personne connaissait, quoi.
D'accord.
Je publie ça, le dossier se vend pas trop. Je l'ai d'ailleurs mis en ligne gratuit il y a quelques temps.
Donc un Français qui explique la Chine aux Américains.
Voilà, et aux Chinois et aux Japonais. Pas aux Chinois, mais aux Japonais, aux Coréens, à des gens d'ailleurs, aux Russes. J'ai vendu en Russie. À Harvard Business School, ils ont acheté le dossier. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, bah effectivement, c'était un peu bizarre, un Français qui expliquait l'Asie.
Et donc juste, donc tu nous parles de angel investment, ouais. de seed funding. Mm-hmm. Est-ce que tu peux développer un peu ton expérience là-dessus? J'ai compté 13 startups.
Ouais, je dois être à 14, j'ai pas mis la dernière.
Qu'est-ce que t'as donc ça a commencé de manière un peu voilà peut-être opportuniste. Mais
oui,
au bout
oui,
de 13,
oui.
Est-ce que t'as développé une stratégie d'investissement? Qu'est-ce que t'en as tiré comme
Alors, bon, déjà...
Comme conclusion, et peut-être comme bénéfice, là, je vois qu'il y a eu quelques
J'ai écrit un article là-dessus, il y a quelques temps, sur Hacker Noon, sur The Hacker's Guide to Angel Investment, où j'ai un peu résumé ma pensée et mes connaissances. Alors, j'ai pas investi dans des boîtes qui ont fait des milliards, donc... Théoriquement, ça décrédibilise un investisseur hein, quand t'as pas mis l'argent des milliards. Mais finalement, je suis peut-être plus proche d'un investisseur qui s'en est pas trop mal sorti parce que je pense que la plupart s'en sortent très mal, mais n'en parlent pas. Donc moi, je pense que je suis sur le papier, je suis encore bien, même très bien. J'ai des investissements qui continuent d'avancer. J'ai eu quelques sorties partielles qui m'ont remboursé pas mal de choses. Ce que j'ai appris, c'est que au début, en général, on est dans les mauvais deals parce que pourquoi est-ce qu'on viendrait te voir toi si on pouvait trouver mieux? C'est plutôt ça. Tu sais, c'est un peu la blague. Pour, si tu vois pas l'idiot autour de la table, c'est que c'est toi.
C'est une approche assez humble, mais
c'est la réalité. Tu vas, ceux qui ont accès à des meilleurs investisseurs vont pas te voir à moins que tu aies une valeur ajoutée nette pour quelque chose. Moi, j'avais un peu un positionnement un peu unique parce que j'avais une certaine notoriété dans sur l'Asie, sur les market entry, sur le numérique. Mais il y avait assez peu de boîtes finalement que ça intéressait, ce genre de choses. Donc la question, c'est à quelle table tu es. C'est plus important que ta capacité à choisir finalement. C'est si t'es pas à la bonne table, t'auras pas les bonnes opportunités. Tu vois, c'est c'est peut-être quelque part trouver des bons deals, c'est les aiguilles dans la botte de foin. Mais si dans ta botte de foin il y a pas d'aiguilles ou que des aiguilles tordues, ça va pas. Si t'es dans une petite botte dans laquelle il y a plein de bonnes aiguilles, hein, c'est mieux.
Tu t'es rendu compte de ça, donc oui, au fur et à mesure. Et donc,
mais j'ai eu assez de chance parce qu'en fait, mon premier deal, c'était des copains. Les chances pour lesquelles tes copains soient les gens qui vont faire un méga succès sont très faibles. Mais bon, t'apprends en faisant aussi. Donc, je dirais au début, soyez un peu prudent si vous faites de l'investment. Faites pas des gros chèques. Mon premier chèque était assez gros. J'aurais dû faire beaucoup plus petit. Mais en même temps, le chèque est à la mesure de ce que ça demande pour vous d'être impliqué quelque part. Mm-hmm. C'est plutôt psychologique.
D'accord.
Ensuite, j'ai eu plutôt de la chance parce que j'ai été associé à 500 Startups. J'avais aidé Dave McClure à faire une tournée en Asie. C'est lui qui m'avait invité d'ailleurs à faire un speech aux US avant de démarrer son fonds.
Donc 500 qui est un
accélérateur de la Silicon Valley, qui était assez connu. Après, bon, il a eu des soucis avec MeToo et tout. Là, il revient un peu sur la scène. Mais c'était un gars qui faisait énormément pour l'écosystème, qui était très ouvert, qui voyageait beaucoup, qui aidait les gens à se connecter. Tiens, je vais mentionner d'ailleurs un autre deal que j'ai pas fait. Il a fait venir un petit groupe de gens en Asie. Moi, je l'avais organisé des trucs en Chine et en Corée. Ça s'appelait Geeks on a Plane. C'était un peu geeky comme titre. Et il faisait venir 20-30 personnes, des entrepreneurs, quelques investisseurs. J'ai rencontré des gens un peu connus. Puis quelques petits mecs qui étaient là avec des startups, un peu ceci, cela. Il y avait un gars, quand je me rappelle, un grand gars qui était là. Ouais, toi, je lui demande, tu fais quoi? Je lui dis, moi, je fais une app, tout ça, en fait. Là, c'est une app de photos. J'ai une photo, ça sert à quoi? C'est quoi le business model? Bon, c'était un des cofondateurs d'Instagram. Ah. Mais à l'époque, c'était tout petit. Puis moi, ça m'intéressait pas. Et je crois que moins d'un an après, il a fait une sortie. Je crois que c'était autour d'un an après.
Un an après.
Ouais. Un ou deux ans après, ouais. Mais bon, ça monétisait pas. Donc, mais bon, dans la Silicon Valley, il fallait comprendre que la croissance et avoir un usage où tu as de la croissance et de la rétention, c'est une énorme valeur. Donc, même si ça monétisait pas, ça avait une valeur que Facebook a reconnue et que certains investisseurs assez tôt ont reconnu, parce qu'ils ont pas levé énormément, finalement. Ils ont vendu assez vite. Donc, une autre opportunité ratée. Bon, elle était quand même assez lointaine.
Sachant de mémoire d'avoir écouté un podcast intéressant sur un des fondateurs, au début, ils se cherchaient, quoi. C'est encore un exemple de start-up.
Les mecs faisaient un truc qui les amusait. Voilà, ça marchait. Et puis quand t'as de l'usage, c'est vrai que la traction, je pense que c'est un truc très plaisant et que c'est un bon guide. Alors, faut qu'il y ait de l'attraction et que ce soit pas un feu de paille. Parce que si t'as pas de rétention, que les gens essayent ton truc et après le jettent à la poubelle, ça vaut rien. Enfin, pas grand chose. Mais si t'as de l'attraction et de la rétention, c'est vrai que c'est de l'or. À l'époque,
La rétention est même presque plus importante d'en avoir un modèle.
Absolument. La rétention.
Ensuite, t'as plus qu'à amener le trafic et c'est gagné, quoi.
Après, bon, t'amènes le trafic, faut quand même monétiser, tu vois. Si t'as un parc d'attraction. Un parc d'attraction super sympa, l'entrée est gratuite et tu veux rien, ça va pas. Donc, ça c'était un truc assez intéressant. Ça m'a connecté à la Silicon Valley. Là, j'ai un peu appris aussi à comprendre qu'est-ce qui se passait. J'ai passé un peu de temps là-bas et j'ai passé du temps, donc, dans l'accélérateur de Dave McClure quand ça démarrait, et parce que je travaillais un peu sur des idées moi-même, et je me suis retrouvé, au lieu d'avancer sur mes idées à moi, à faire des chèques dans 5 boîtes de son programme.
D'accord. T'étais chez 500
startups.
T'étais donc.
J'étais en résidence.
En résidence. Voilà.
J'essayais d'un peu donner des conseils. J'avais finalement pas beaucoup de conseils utiles, je pense, pour la plupart, parce qu'ils étaient pas trop sur mes domaines. Mais bon, il y en avait quand même quelques-uns sur le jeu vidéo, un peu éducatif et trucs. Je pense que j'avais des trucs à dire.
Et sur un petit laps de temps comme ça, t'avais essayé dans 5 startups, quoi. C'est.
Bah écoute, les programmes duraient 3-4 mois. Ouais. J'ai passé du temps. Il y a des gens que je trouvais sympas, il y a des potes que j'aimais bien. J'ai investi sur tout qui me plaisait, quoi. Pas forcément sur la méga traction qu'ils avaient. Et il y en a deux qui ont vraiment pas mal marché en fait, et qui ont vraiment remboursé tout le reste et plus.
Qui sont, tu peux nous dire les noms
Alors il y en a une, c'était un jeu pour enfants. Alors ils ont eu des petits soucis après.
Yogomi, voilà, boîte mexicaine. Gengo, ça c'était pas Favored, mais pas dans leur programme. Eux, ils ont fait une sortie il y a pas très longtemps. Bon, c'était pas fou, mais c'était pas mal.
Gengo,
c'était la plateforme de translation en ligne.
C'est connu de couleur verte.
Ouais, plateforme traduction en ligne.
J'étais client de Gengo.
Ouais, non, moi aussi, c'était pas mal.
Okay, okay.
Mais bon, le business est un peu compliqué dans ces domaines. Ouais. Tokyo Otaku Mode, j'ai fait une sortie partielle. Eux, c'est une communauté pour les otaku et les fans de culture Japon, manga, tout ça. Et les mecs avaient énormément de traction sur Facebook. Après, c'était un peu plus compliqué à monétiser, mais ils sont devenus plus ou moins un site d'e-commerce et de culture. Et ils ont fait une sortie partielle qui était pas mal. Et là, ils réfléchissent à pas rentrer en bourse, donc voilà.
Vas-y.
Je continue parce que, bon, ça, c'est, il y en a deux, trois autres qui ont pas trop marché. Ben voilà, j'ai marqué aussi, hein. Curious Hat, Story Panda, Tender Tree.
Toute la musique. Liste, on regarde la liste là sur LinkedIn, ouais. De Benjamin Joff sur LinkedIn.
Donc, mais avec chaque, j'ai appris un peu des trucs, et notamment, tu fais les erreurs et t'essaies après de pas les refaire, et t'améliores ton modèle mental, en fait, d'investissement.
Je vois justement là, Elysium Space, j'avais croisé donc c'est des Français, il est installé à San Francisco.
Ouais, c'est un copain d'enfance.
C'est un projet assez délirant, vas-y, dis-nous.
C'est un copain d'enfance qui est maintenant français, donc consultant à la NASA maintenant, et qui voulait lancer une boîte dans le spatial. Il est hyper fort sur plein de trucs techniques. Là, il fait des modèles de navigation pour un avion qui fait de l'observation spatiale. Enfin, il est hyper bon techniquement sur tout ce qui est machine learning, AI, planning de mission. Et il s'était mis en tête de faire une boîte dans le spatial, dans le New Space, qui démocratiserait l'accès à l'espace, en fait. Et parce qu'aujourd'hui, on a beau en parler, les gens normaux, ils n'ont pas accès à l'espace. Et il s'est dit, un truc qui pourrait être assez intéressant, il a regardé différents trucs, et il s'est dit, peut-être dans le funéraire. Voilà.
On peut pas en profiter de vivant de l'espace encore.
Vivant c'est cher parce que tu payes au kilo l'espace.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et si tu
pèses c'est dur à marketer ça.
Voilà.
Il y a une logique mais.
T'as des gens genre Virgin Galactic qui t'envoient faire un petit tour en bordure d'espace pendant quelques minutes.
Ah, vous avez pas les moyens, pas de problème, on a la solution.
Voilà. Virgin Galactic, il vendait son ticket à 250 000 $, ça fait je crois 8 ans qu'il promet.
Dès que vous êtes mort, on peut vous envoyer.
Exactement, mort c'est possible. Et il s'est dit, finalement, dans un monde de plus en plus laïque, de plus en plus tourné vers la célébration de la vie, ça peut être une façon intéressante et assez majestueuse, en fait, de célébrer la vie de quelqu'un. Et donc il envoie des nanosatellites dans l'espace, donc donc c'est des charges secondaires, des secondary payload sur les fusées, et il met en orbite et donc le nanosat tourne pendant en général un an ou deux.
Un petit satellite qui contient donc
les cendres, avec des petites capsules, donc avec
un
gramme de cendre dans une petite capsule. Dans un microsatellite qui fait donc 10 cm, une petite boîte de 10 cm sur 10, et qui tourne jusqu'à ce qu'elle se repénètre dans l'atmosphère, et là elle se consume entièrement et en fait fait d'ailleurs une étoile filante.
Les
Japonais avaient bien aimé le concept d'étoile filante.
Je l'avais croisé, il m'avait dit j'ai tout le temps de prendre un café avec toi, parce qu'il attendait le lancement d'une fusée. Est-ce que c'était la première fusée il y a 4-5 ans à San Francisco?
Ah, c'est possible, ouais.
Il avait pas mal de limitations, parce que je sais par exemple
les
Indiens prendre des cendres humaines, c'est un no.
Ah non, c'est un cauchemar. L'espace, on a l'impression que c'est accessible, c'est un cauchemar.
Et
au niveau réglementaire, au niveau accès, et un peu au niveau superstition. Il y a beaucoup de lanceurs qui refusent d'avoir des cendres. Pour des raisons vraiment pas claires, parce que c'est un truc entièrement inerte, quoi. Il y a vraiment aucun truc qui bouge, quoi.
Et, là, donc, et tu te dis que les startups, c'est risqué en général, mais quand je voyais un entrepreneur, je me disais, là, ça y est, ça fait des années qu'il travaille, il appuie sur un bouton, mais là, il applique. Maintenant, il attend qu'une fusée décolle, et si la fusée explose, ça réduit en fumée.
T'as pas obligation de résultat, hein, sur un lancement spatial.
Et c'est pas top pour la suite de ton business.
Mais là, il y a eu, on a pas
l'étoile filante, mais on a fait un gros feu d'artifice.
Il y a eu un lancement, c'était en fin d'année dernière, il me semble, par SpaceX. Et ça a marché, c'était mis en orbite, c'était magnifique.
Donc ça continue aujourd'hui. Ouais. Ok.
J'avais jamais suivi vraiment de près un lancement de fusée. Là, j'avais un peu des émotions, quoi.
On s'écarte un peu de l'Asie, mais bon, c'est mais super intéressant. Tu conclues un peu donc sur la stratégie que tu as mise en place.
Alors la stratégie, c'est qu'aujourd'hui j'en fais très peu d'angel investment parce que j'ai plus trop le droit vu que maintenant je suis dans un fonds.
Est-ce que c'est pas même un peu surévalué aujourd'hui? Non, toi t'investirais encore comme ça.
J'ai fait un deal l'an dernier dans une boîte française de robotique qui s'appelle Kala, qui fait un robot qui permet de préparer des plats de pâtes.
D'accord.
Donc c'est l'automatisation dans le food and beverage. Ils ouvrent un restaurant d'ailleurs. Non, je pense que c'est pas. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire dans l'angel investment, mais que la plupart évidemment se plantent parce que les chances sont très faibles. Alors évidemment, il y en a qui réussissent, c'est ceux qui parlent, mais ils savent pas trop forcément trop pourquoi.
Et même la stratégie de base, enfin, si tu fais
la stratégie, c'est de s'associer avec des gens qui font du bon deal flow.
Ça, il faut au moins faire 10 investissements, faire 2-3 investissements.
Alors
angel,
c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit.
Alors la réalité, c'est le nombre est pas important.
La qualité passe avant, je suis bien d'accord, mais.
Le nombre, voilà, mais si t'as 10 mauvais investissements.
Est-ce que c'est pas presque mathématique, tu vois, qu'il faut qu'il y ait un gros investissement qui récupère les autres?
Disons que d'abord, le plus important, c'est d'être à la bonne table. Donc, faut le bon deal flow.
D'accord. Ouais.
Et donc, faut être associé ou connecté avec des gens qui ont accès à des startups intéressantes. Et qui ont une expertise et qui aident à dérisquer et tout ça. Si t'es débutant angel investor et t'es le lead quelque part avec d'autres gens, avec je sais pas quoi, des gens qui connaissent rien, c'est pas bon signe. Donc d'abord s'associer, ensuite oui c'est vrai il y a un aspect statistique, il y a assez peu, je veux dire les startups c'est une distribution assez brutale au niveau statistique, hein. Il y en a plein qui ramènent rien, quelques-unes qui ramènent un peu et très rares qui ramènent beaucoup, donc il y a un petit côté là-dessus, donc c'est pour ça vaut mieux pas faire des chèques trop gros, vaut mieux faire un peu gaffe aussi au valo. Et je pense que peut-être un truc à garder en mémoire quand on est angel, c'est qu'on travaille avec son argent. Tandis que les VC travaillent avec l'argent des autres. Mmh. Et donc, je pense qu'en tant qu'angel, il faut pas hésiter à faire des sorties plus tôt, pas attendre tout au bout, parce que quand t'es un angel, ça met probablement 10 ans à faire une sortie si t'attends un IPO plutôt d'acquisition. Et si j'avais fait des sorties plus tôt, je serais finalement mieux sorti, parce que t'attends 2-3 rounds. Tu fais le tour d'angel, souvent il y a un bridge, un deuxième tour d'angel, ou un pré-seed, ensuite il y a un seed, ensuite il y a un série A. Quand tu atteins le série A ou le série B, je pense que ça vaut le coup de commencer à regarder si tu vends pas la moitié, un tiers ou tout, quoi. Mmh, et parce que l'idée c'est aussi de recycler ton capital et de faire des multiples, et plus t'as des sorties et du positif, plus tu gagnes des galons quelque part, ça améliore ta réputation. Et ça permet de... Il y a une question de vélocité de capital, tu vois. Mm-hmm. Si t'entres tard, c'est pas sûr que ça va multiplier autant que ça a multiplié au début.
Oui, bien sûr.
Donc,
même si c'est une prise de risque plus importante, de
oui,
réinvestir.
Oui, alors rester. Effectivement, donc ça dépend encore de ton deal flow, de ta prise de risque. Donc, il y a tout un équilibre à faire. Mais je pense que pour les angels, il y a intérêt à réfléchir. Ben voilà, je vous renvoie à mon article sur Hacker Noon, qui, je pense, est assez bien.
Hacker Noon.
Voilà.
Okay. Sur Hacking. Je mettrai le lien dans les commentaires, sinon.
Voilà, mais j'ai effectivement appris que l'important, c'est d'être à la bonne table, que ce qu'on aime, c'est pas forcément...
Ne pas oublier la qualité avant d'avoir une stratégie où il faut faire une dizaine d'investissements, peut-être, mais ne pas oublier la qualité avant tout.
Qualité avant tout, et on est très mauvais juge de la qualité, donc mieux vaut aller... Tu vois, c'est, par exemple, c'est un peu comme se dire, est-ce que je fais des courses, c'était aux États-Unis, est-ce que je fais des courses à Walmart ou à Whole Foods? Tu vois, si tu vas à Whole Foods, tu sais que tout est de bonne qualité, en gros, quoi. Mm-hmm. Il y a rien de vraiment mauvais.
Ouais.
Donc, ça te fait déjà un bon tri. À Walmart, ça se discute, quoi. Donc, dans l'angel investment, je pense que c'est un peu comme ça aussi. Maintenant, dans les autres leçons, il y a des tas de choses à discuter au niveau des startups, des fondateurs. Bon, ça, on peut en parler un peu plus tard.
Ok, très bien. Là, ça nous amène dans la chronologie. On avait la fin de Mobile Monday en 2010. Tu nous parles de ton activité d'Angel Investment qui, j'imagine, est étendue sur le temps.
Je vais dire un dernier mot sur l'Angel Investment, parce que j'ai une start-up un peu marrante qui s'appelle Open Trends, dans laquelle j'investis au tout début où j'étais chez Hacks comme investisseur hardware. C'est une boîte qui fait des robots qui automatisent des protocoles de laboratoire. Ça ressemble à un 3D printer un peu gros, un printemps 3D. Et en fait, là, ils ont mis au point une suite de tests pour le coronavirus.
D'accord.
Et je pense que ça va... Alors déjà, ils marchaient déjà bien, et je pense que ça va booster leur business encore plus, là, OpenTrends.
OpenTrends, ok, intéressant.
Ils peuvent automatiser des milliers de tests avec des robots qui coûtent pas cher.
Ouais, non, on parle des startups qui sont sur le sujet, c'est intéressant.
On en a quelques-unes dans notre portfolio, donc c'est assez intéressant. Okay. Celle-là est bien, on en a une autre en biotech qui s'appelle Casper Bio, qui aussi fait des tests en une heure. Mais eux, c'est un petit kit de test. C'est pas un lab. Et d'autres, enfin, voilà. Okay. Mais voilà, c'est intéressant de voir que la science et les startups peuvent faire partie des solutions. Voilà.
Ok. Ensuite, comme je l'ai dit en introduction, t'es keynote speaker. Mm-hmm. Tu travailles, t'as fait plusieurs articles pour TechCrunch, Forbes, etc. Tu es aussi prof pour...
Intervenant.
Intervenant plutôt, dans certaines universités. Mm-hmm. Ça a commencé à quelle époque?
J'ai commencé à écrire des trucs assez tôt. Je t'ai parlé de la Chine, où j'essayais d'aller dans des conférences. Et en fait, ce que j'avais fait au début, pour essayer d'aller à la conférence, elles étaient assez chères et j'étais pas invité à parler parce que j'étais pas connu et j'avais peut-être pas grand chose à dire. Et je me suis dit, bon, qui peut y aller gratos? Et j'ai vu que, soit t'étais speaker, soit t'étais organisateur, soit t'étais sponsor, soit t'étais copain d'un de ces trois-là, soit t'étais média. Je me suis dit, tiens, média, c'est peut-être pas bête. Et j'ai contacté le journal du net et je leur ai proposé d'écrire des articles pour eux sur l'Asie, en échange que je puisse utiliser leur nom pour aller dans des conférences. Mmh. Et ils m'ont fait, y a pas de problème. J'ai écrit pendant un an des articles pour le journal du net.
D'accord.
Voilà. Ça m'a permis d'aller dans des confs. Et ensuite, ça m'a aussi fait comprendre que ça aidait la notoriété. Et quand j'ai commencé à faire du conseil, j'ai aussi commencé à proposer des articles. Et puis j'ai des journalistes qui m'ont contacté peu à peu pour mon expertise à différents médias. Et donc TechCrunch, j'ai écrit pour Hacks une quinzaine, une vingtaine d'articles. Ça nous a fait connaître aussi. J'ai pitché parfois à d'autres médias. Forbes m'a proposé d'être guest writer, j'ai fait pendant un peu plus d'un an des articles sur l'Asie pour Forbes Asie. Effectivement, c'est assez sympa, ça prend pas mal de temps. Parce que moi, je fais des articles plutôt un peu de fond.
Recherches derrière. Ouais.
Donc, même quand t'as de la connaissance, faut quand même faire des recherches supplémentaires, faut écrire, réécrire, corriger, repackager, faire les choses bien. Ça peut mettre une dizaine d'heures d'écrire un bon article.
D'accord.
Donc ça, c'est quand même significatif.
Mm-hmm. C'est quelque chose que tu fais plus pour le côté, on va dire, prestige que financier
ou... Ah, c'est pas financier du tout. D'accord. En général, ils payent pas.
Parfois pas payé du tout, quoi.
Souvent pas payé. D'accord. Okay. La plupart du temps pas payé. Mm. Mais c'est intéressant pour la notoriété. Et moi, ça m'intéresse parce que écrire, c'est une façon de penser. Mm-hmm. Ça t'aide à organiser tes idées. Ça t'aide à complémenter tes idées. Parfois, ça te donne aussi l'excuse pour contacter des gens. Là, toi, tu fais un podcast, ça te permet de contacter des gens. Écrire, moi, j'ai assez souvent contacté des gens pour qu'ils me...
C'est toi qui travailles, là. C'est ça, l'astuce avec le podcast.
C'est quand même toi qui travailles. Tu vas produire.
C'est possible. Trouver les invités, etc. Il y a pas
mal de boulot. Packager. Il y a tout un travail qu'on voit pas, dont je suis familier, derrière la scène, qui prend beaucoup de temps. Effectivement, moi j'ai écrit des trucs à droite à gauche, je continue à l'occasion quand j'ai... Quelquefois, faut un peu qu'une idée atteigne un peu une masse critique où je me dis tiens, il y a un truc à faire, ou le timing est bon pour ça. Là, je réfléchissais à peut-être écrire un truc sur les startups qui bossent sur le coronavirus, par exemple, pour montrer que y a de la tech, il y a des choses intéressantes qui peuvent vraiment amener des solutions, quoi. Souvent une idée met du temps à maturer, et moi j'aime bien prendre des notes un peu au fil de l'eau. J'ai Google Keep, là je prends souvent des notes sur plein de choses, et quand ça s'accumule, après je me dis tiens, je peux peut-être mettre ça dans un petit speech ou dans une partie d'un speech.
Tu vas interviewer des gens aussi pour un article?
Ça m'a. Alors ça, je fais assez rarement interview de gens, mais là j'ai commencé.
Pas une interview, mais juste avoir des feedbacks sur par un expert.
Ouais, je demande. Bah, je discute avec pas mal de gens. D'accord. Je demande. Ouais. J'organise des events aussi. J'en ai organisé pas mal. Je suis devenu pas trop mauvais à ça aussi. Plutôt des petits forums entre, je sais pas quoi, 50 à 150 personnes. Bah, hier, d'ailleurs, j'ai probablement fait le dernier event de France. C'était juste avant le speech de Macron, c'est arrêté à 8h pile, j'avais dit.
Sur le coronavirus. Ouais, alors, c'était le dernier event qui n'a pas été annulé.
C'était un event sur la Deep Tech, avec des investisseurs. Bon, j'ai maintenu, j'ai failli annuler 50 fois, mais finalement, il y avait des bonnes volontés et j'ai maintenu.
D'accord.
Mais
et sur le côté voilà. Donc intervenant. Donc,
ça c'est d'ailleurs un petit conseil aux gens.
Ouais.
Parler en public, c'est une très bonne compétence à acquérir. Et organiser des petits events, c'est aussi beaucoup plus simple qu'on ne pense. Et c'est aussi très bien parce que quand on crée une scène, ça permet d'inviter des gens sur la scène et d'inviter des gens à regarder. Et ça, ça peut être un très bon outil. Mm-hmm. Et je conseille même ça à nos startups. Je leur dis, bah tiens, vous êtes dans tel domaine. Organiser un petit event autour de votre domaine, par exemple. Bon, pas par exemple, là, les startups qui bossent sur les trucs de virus, ils devraient probablement faire des events. Enfin, non, évidemment pas. Mais ce que je veux dire, des petits forums, quand il n'y a pas de virus, où tu, bah, par exemple, t'es sur dans la construction tech, la tech liée à la construction, tu peux faire un petit forum, voilà, construction tech startup, t'invites deux autres intervenants, à toi, tu présentes un peu ton truc, on discute du domaine, des opportunités, et ça va faire venir, ça devient un catalyseur, en fait, pour les gens du secteur.
Et voir solliciter la French Tech locale, je sais que la French Tech de Hong Kong, on fait
pas
mal d'événements.
Ils ont des accès,
Et en général, les French Tech sont ouvertes à collaborer avec des startups.
Avoir un thème, ça catalyse, et c'est important. Et moi, je préfère les petits forums avec un thème assez précis, aux grandes confs, où un peu, souvent, on va pas très en profondeur et on s'ennuie. Et où ça attire pas des.
Ouais, exactement. Les
groupe.
Les gens, le côté focus. Networking va être encore plus intéressant si c'est focus.
Et surtout, moi, je suis dans la deep tech. Donc, c'est des startups qui s'appuient. Donc, on va peut-être passer à ça d'ailleurs sur mon activité d'investissement avec SOSV. Mmh. On s'intéresse aux startups très high tech. Et souvent, c'est un peu un sideshow, un truc un peu sur le côté dans des plus grosses conférences. Et donc, on a du mal à se retrouver. Et c'est important de pouvoir se retrouver, d'avoir une masse critique. Pour que les échanges et les connexions se fassent.
D'accord, tout à fait. Ouais. Tu voulais nous dire un mot juste sur le côté intervenant dans pas mal d'universités, ça s'est fait.
Oui,
aussi
ça c'est pareil. Bah c'est je trouve un truc assez sympa parce que tu peux un peu plus te lâcher, je pense, devant des publics qui sont moins pros. J'ai fait des speeches à Berkeley, à Stanford, récemment la Dauphine. J'ai fait des speeches à l'occasion quoi, quand on m'invite ou quand ça s'y prête.
D'accord.
Mais en général, je suis assez content de partager un peu ce que je raconte là, et puis expliquer des trucs. Il y a des choses qu'on peut pas trop dire vraiment en grand public, des choses un peu trop vraies ou de lâcher des noms. Donc on peut le faire un peu plus.
Se défouler un peu. Quoi.
On peut un peu plus se lâcher quand c'est off the record dans une université.
Voilà. Et donc on en arrive à Axe. Donc SOSV, tu es rentré par la porte Axe.
Ouais.
Je vois 2013, c'est ça,
ouais,
fin
ouais.
2013.
Ben c'est un Français, Cyril Ebersweiler, qui était aussi en Japon et en Chine depuis assez longtemps, qui avait monté un premier accélérateur de start-up, le premier en Chine d'ailleurs, qui s'appelle Chan Accelerator, qu'il avait lancé à Dalian, où il vivait. Et il était associé avec un investisseur américain qui s'appelle Sean O'Sullivan, c'est le SOS de SOSV. Et il voulait faire ça en Chine, il a dit ça me plaît bien. Il a lancé le truc, Sean a financé avec un petit peu de sous parce qu'il était assez riche, il avait monté une boîte, fait IPO et tout ça. Et en fait son truc a pas mal marché, il s'est aperçu qu'il y avait peut-être une opportunité supplémentaire plutôt que de faire que du software, à faire du hardware. Et il a décidé de monter un autre programme à Shenzhen, spécialisé hardware. Donc c'est-à-dire tout ce qui est produits connectés. Alors les gens plutôt l'image objet connecté, le petit bracelet, les machins. Mais en fait, assez vite, on s'est orienté vers du B2B, des trucs assez high-tech et assez chers, donc des robots de service. Donc c'est pas des robots avec des bras et des jambes, c'est plutôt un robot qui fait un truc hyper spécialisé.
Donc on parle donc du hardware, donc c'est du IoT, des objets connectés.
Objets connectés, mais pas forcément en public. Ça peut être pour l'industrie, pour la santé.
Avec un modèle au début qui était donc assez B2C.
Ouais.
Vous faisiez beaucoup de Kickstarter.
Ouais, on a fait une centaine de Kickstarter.
Des gadgets connectés, hyper sympas, des jouets divers et variés. Tu peux te donner quelques exemples.
Mm-hmm.
Et vous êtes devenu assez expert à faire un Kickstarter pour lancer ces projets.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu par ça qu'on s'est connus,
d'ailleurs. Ouais. Accompagné par tout un programme d'incubation. Enfin, tu peux te
dire. Bah, on est devenu, Ouais, effectivement, au début, on faisait pas mal de consumers. C'était le grand boom.
B2B,
c'est le grand boom de l'IoT. Donc, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait comme truc, bah des robots éducatifs, une boîte qui s'appelle MakeBlock, boîte chinoise qui est dans le premier programme avant que je rejoigne Rax, qui est maintenant une valo à une valorisation à plus de 400 millions qui marche super bien. D'autres produits, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte qui s'appelle Nura qui font des écouteurs audio avec ils ont un système qui permet d'analyser ton profil auditif directement sur l'écouteur, et t'as rien à faire, ça fait, ils t'envoient un son et ils mesurent le retour, et après ils peuvent t'adapter en fait l'equalizer du casque à ton ouïe.
D'accord.
C'est un truc assez dingue, ça vient du médical d'ailleurs, parce que l'un des fondateurs est un chirurgien ORL,
ouais,
et qui fait aussi du firmware, comme quoi il y a des gens qui sont assez talentueux.
Ouais. Quand j'étais passé chez Axe, ouais, ça partait dans tous les sens, c'est extraordinaire, la diversité des projets.
Et c'est devenu très très high-tech.
Ça allait l'agriculture à la santé, en passant par un robot pour jouer au ping-pong.
Ouais, enfin, ouais, il y avait des trucs assez délire.
C'était un robot pour réparer les roues de bus, enfin, c'était ouais, magique, avec des...
Ah bah tiens, le robot pour les roues de bus, c'était pour inspecter les roues de bus, pour éviter qu'il y ait qu'elles explosent parce qu'elles sont trop usées et tout ça, ou qu'il y ait un clou, machin. Donc ils pouvaient détecter...
Un petit robot, parce qu'il faut quand même expliquer que c'est un robot automatique qui roule tout seul, qui est indépendant.
Ouais, il
qui
va sur le parking
dans le garage
de bus
pendant la nuit.
Ouais. Il va sur le parking de bus un peu à n'importe quel moment. Et, il check déjà, il scanne la plaque, il la reconnaît. Bon, ça c'est assez simple. Ensuite, il fait le tour. Il va à la roue, à chaque roue. Il met un bras avec un capteur qui va autour de la roue et qui permet d'analyser la surface de la roue. Donc ça, c'est un truc qui est normalement fait au doigt par un gars, quoi. Donc c'est qui, toi, il touche la roue, il voit pas très bien et il essaie de voir s'il y a un problème. Et ça, un robot automatise ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'eux, c'est une boîte chinoise, ça s'appelle UiBot, et ils font des tas de robots autonomes pour plein d'applications, et ils sont étendus dans la logistique d'entrepôts, des choses comme ça. Et récemment, ils ont été demandés, là, suite au virus, de robots de désinfection.
D'accord.
Et donc ils ont collé des lampes UV sur le dos d'un robot, et ils envoient le robot dans des espaces quand il y a personne pour désinfecter à la lampe UV ultra puissante.
Mm-hmm.
Et là ils ont prototypé leur truc, je crois ils ont mis 2 semaines à faire un robot parce qu'ils ont déjà toute la techno, quoi. Et en gros 2 semaines après ils livraient les 30 premiers, quoi. Ça c'est la vitesse, ça c'est Shenzhen pour toi. Donc c'est un peu ça explique aussi pourquoi on est à Shenzhen, la supply chain va à toute vitesse, les choses sont moins chères, il y a de l'expertise. Cyril donc en 2013 m'a dit bah tiens on a ce truc là. J'ai dit écoute moi je suis ingénieur mais je connais pas trop en fait ce genre de techno. Il a dit t'inquiète pas, c'est pas ça le problème, c'est plutôt le côté business. Toi t'as fait du conseil, t'as des réseaux, tu connais un peu le marketing et tout ça, c'est ça la stratégie, t'as fait de l'investment, donc viens voir et viens nous aider sur le côté business. Donc à l'époque j'avais plutôt envie de partir de Chine. J'ai passé les épisodes sous silence, mais j'ai passé un peu de temps à Singapour, Kuala Lumpur.
T'as fait tellement de choses qu'il vaut mieux, on va s'y perdre.
Je raccourcis, mais j'avais plutôt envie de partir parce que bon, j'ai un peu fait le tour, j'en ai un peu marre de faire du conseil. J'aimais bien le côté startup, mais j'avais pas de projet à moi. Donc il m'a proposé ça. Je me suis dit bah tiens, finalement c'est peut-être pas mal. Je vais aider les autres avec leurs projets. Comme ça j'apprends sur le côté start-up et je les aide avec mon expérience à moi. Bon, je retourne en Chine, Cyril m'a fait un peu la pub, il m'a un peu survendu Shenzhen, il m'a amené dans un café sympa au City Loft, il m'a dit regarde Shenzhen ça a beaucoup changé, c'est comme ça maintenant. Dans le cœur de Huachambe c'était pas comme ça.
C'est la capitale du hardware, il s'y passe des choses extraordinaires à vivre, j'avoue que quand on habite à Hong Kong...
Surtout en 2013-2014, maintenant c'est vachement mieux, mais à l'époque c'était quand même un peu rugueux dans le centre du quartier électronique.
Rugueux, c'est le terme.
Mais bon, il faisait beau, c'était quand même sympa et c'était pas loin de Hong Kong... beaucoup moins pollué que Pékin, donc ça comptait aussi. Donc j'ai rejoint, on a commencé à investir dans des boîtes, on a trouvé des boîtes dans le monde entier, j'ai fait connaître le programme par les articles, les speeches et tout ça, je me balade beaucoup.
Donc on parle beaucoup. On parle de boîtes qui ont un prototype.
Prototype, trois personnes, prototype.
Qui vont venir donc à Shenzhen pour plusieurs mois, c'est ça?
Voilà, pendant 4 mois, 6 mois.
Tout un programme, on va les aider à avancer sur le prototypage. Ouais. Et sur même le
business,
aller vers le lancement d'un premier produit. Quoi.
Voilà. On les aide à comprendre comment. Enfin, c'est des gens qui savent faire un prototype de labo, qui connaissent rien à la supply chain, et on les aide à comprendre et à construire déjà le bon produit, peut-être un peu mieux positionné stratégiquement que ce qu'ils avaient, et ensuite comprendre comment créer leur propre supply chain, la gérer, et comprendre derrière en fait. Excuse-moi, planifier un peu la distribution derrière aussi, et les 2 années à venir, comment tu vas te financer, comment tu vas te distribuer. il faut un peu
vous leur donner un peu d'argent, quoi. Vous prenez une participation.
Alors à l'époque on investissait 25 000 $ par boîte. Maintenant c'est un package de 250 000, donc ça
ça a pas mal augmenté.
À l'époque quand Cyril a démarré il faisait 10 boîtes par an, là on en fait 40
contre le pourcentage standard.
Ouais, c'est standard cross the board en général. À l'époque on prenait c'était je crois 8%. Là on a augmenté parce qu'on a augmenté les prix aussi.
D'accord.
Les chiffres, enfin on investit beaucoup plus, donc c'est un peu un mix parce qu'il y a des common shares et des preferred, donc c'est un peu un mix, mais c'est un peu légèrement au-dessus de 10%.
Avec des équipes, donc je me souviens du monde entier, mais quand même pas mal de Chinois et d'Américains.
Ouais.
Et si je me trompe pas, avec quand même des caractéristiques, souvent des Chinois qui étaient très forts techniquement, mais qui parfois sur le côté marketing, comment vendre leurs produits dans le monde entier, étaient un peu plus perdus.
Ouais.
Et des Américains, typiquement, qui eux étaient très forts sur le côté marketing, mais qui d'un point de vue technique, quand ils arrivaient en Chine pour produire un hardware en Chine, était pas aussi fort que les Chinois.
Oui, alors effectivement, ça c'est
en général, ça a changé.
En général à peu près ça.
Ouais.
Mais finalement pas, ils sont pas si éloignés que ça, au sens où alors oui, au niveau statistique, c'est à peu près moitié États-Unis, un quart Europe, un quart Asie avec beaucoup de Chine, parce que on trouve les startups où elles sont, et là où elles sont bien. Et effectivement, les Américains sont quand même beaucoup mieux formés à pitcher, à vendre. Même si ceux qui viennent de la deep tech et de la science, ils sont quand même un peu moins au point que les autres.
Il y avait quelques exemples d'ingénieurs américains, j'avoue.
Ouais, non, ils sont pas tous très bons à pitcher, loin de là. Et les Chinois, finalement, avec leur style, ils se débrouillent très très bien pour vendre en Chine. La plupart des boîtes, d'ailleurs, on leur dit pas, on va vous aider à le vendre dans le monde entier. Aux Chinois, on leur dit, à un moment, on va vous aider à vous étendre à l'international, mais surtout, on va vous aider à devenir une boîte d'envergure mondiale. Et de mindset mondial, avec les aspects de qualité, de communication, qui font quand même la différence, même en Chine. Hein. Nos boîtes ont l'air, je pense, très pro, très vite, par rapport, parce qu'on fait monter le niveau, quoi.
D'accord.
Et pour les boîtes américaines, c'est principalement l'accès à la supply chain. Elles sont quasiment aucune, se lancent sur le marché chinois. C'est des marchés très différents, des écosystèmes, on peut en parler, très, très différents en termes de composants. Déjà, réussir sur son marché, où ils connaissent mieux aux États-Unis ou en Europe, c'est déjà assez compliqué. Les boîtes qui se lancent en Chine, c'est assez rare qu'elles le fassent avant d'avoir une certaine maturité.
D'accord, ok. En tout cas, moi, je suis assez fan de Axe. Hein. J'ai toujours été super impressionné par ce que vous faites. De suivre les projets Kickstarter, les vidéos, etc.
Kickstarter, c'est assez marrant. Non, on en fait très peu maintenant, mais on en a fait une centaine, dont 10 à plus d'un million de dollars.
Ah ouais. D'avoir vu vos locaux à Shenzhen, qui sont ces deux étages avec un atelier super bien équipé.
On vient de déménager là, ça a encore grandi, mais on n'est plus que sur un étage, mais c'est un truc énorme. C'est,
d'accord. Toujours au même endroit.
Dans le même quartier.
D'accord.
Même quartier.
Parce qu'avant c'était donc dans Huaqiangbei, dans le shopping mall des composants électroniques.
Bah, c'est encore un peu le cas.
C'est un magasin de jouets pour ingénieurs électroniques.
Ouais, bah, okay. Donc SOSV, je termine. On est une société d'investissement de capital risque. On a 700 millions en management. On vient de clore un fonds de 277 millions de dollars pour investir dans environ 150 startups par an à travers le monde, à travers nos programmes. Donc Hax représente à peu près un tiers. On a IndieBio qui fait de la biotech à San Francisco et New York. C'est un autre tiers. Et puis après, on a un mix de trucs sur food, software, blockchain qui fait le dernier tiers. Les spécialités de Axe, donc moi j'étais 100% Axe pendant 6 ans, c'est tout ce qui est trucs connectés, donc robots, trucs pour l'industrie, agtech, santé connectée. On a par exemple une start-up suédoise dont je parle assez souvent qui s'appelle Flow Neuroscience, qui fait un produit de stimulation du cerveau pour traiter la dépression.
D'accord.
Donc c'est en concurrent avec les antidépresseurs avec un appareil, donc c'est les digital therapeutics, donc c'est des trucs assez marrants, thérapie numérique.
C'est pas du neurofeedback quoi.
Il y a du neurofeedback, mais il y a de la stimulation directe.
Ok.
Transcrânienne. Donc c'est des trucs certifiés CE, il n'y a pas de souci. Hein. C'est propre. Hein. La différence c'est qu'ils font un produit qui coûte beaucoup moins cher et qui est accessible à un public beaucoup plus large que ce qui se faisait déjà finalement dans certains hôpitaux spécialisés. On a quelques startups françaises assez sympathiques. Alors je fais hello à FitMe qui vient de levier 9 millions pour c'est des semelles qui aident pour des diagnostics de différents problèmes de santé, semelles connectées. Muna qui est un appareil qui aide à s'endormir avec un contrôle de la température de l'oreiller. Quelques autres startups dont Alors, j'ai pas tout le monde en tête là, mais bon, voilà, ils se reconnaîtront.
Salut, d'accord.
Salut à vous.
Et ton rôle donc chez SOSV maintenant.
SOSV, alors après Axe, donc depuis à peu près un an, je me concentre sur étendre le réseau d'investisseurs de SOSV et la notoriété, parce que finalement, nos accélérateurs se sont fait assez connaître dans leur spécialité, mais le fonds était un peu en background et les gens connaissaient pas trop. Et donc j'ai organisé, maintenant je parle plus au nom du fonds.
Tu as beaucoup parlé au nom de Axe, tu as évangélisé oui, Axe dans le monde entier sur des conférences, etc.
Absolument,
comme tu le disais.
Donc ça a fait beaucoup de deal flow, ça nous a aidé à gagner en crédibilité, étendre notre réseau d'investisseurs. Et maintenant, je fais pareil pour SOSV. Donc à travers les events, à travers des dossiers qu'on publie, on a un truc sur le Deep Tech Trends qu'on a publié l'an dernier, qui a pas loin de 40 000 vues là, en ligne sur SlideShare. J'organise des events, je parle, j'écris, et avec l'idée donc de trouver des bonnes boîtes dans lesquelles investir, partout où elles soient dans le monde. On a investi dans une boîte en Afrique il y a pas longtemps, qui avait gagné d'ailleurs la grande conférence Hello Tomorrow, qui a été annulée cette année, enfin reportée cette année à Paris, qui était une très belle boîte. Et voilà, donc un peu ce que je fais avec SOSV, parce que malgré tout, même quand on est investisseur, il y a un aspect marketing, notoriété qui compte. Et donc, je pense d'ailleurs à me lancer dans le podcast. J'ai enregistré la semaine dernière. Donc,
tout le monde fait des podcasts.
C'est magnifique. Mais il faut être spécialisé, je pense. Parce que les podcasts assez généralistes, il y en a déjà beaucoup sur plein de trucs. Mais sur des trucs spécialisés, il y a beaucoup de place. Et c'est finalement l'important.
Ok, d'accord. Donc, bon, on a vu une bonne partie de ton expérience professionnelle. On n'a même pas eu le temps de tout couvrir, mais c'était déjà très, très, très riche.
Mon œuvre.
Pour mieux te connaître, deux trois questions un peu plus perso avant de conclure. Enfin déjà il y en a une que j'aime bien. Je te pose des questions
vas-y.
Un peu dures parce que pour moi
vas-y.
Je te connais comme quelqu'un de vraiment intelligent qui a qui sait réfléchir du tac au tac, qui est bon pour trouver des noms de start-up. T'as dû en trouver des
oui,
nombreux.
Ouais.
Donc voilà,
j'ai fait du branding un peu par la force des choses que nos start-up arrivent avec des noms couchés dehors.
Je te fais des compliments, mais maintenant faut que t'assures sur les réponses.
Aïe.
On coupera au montage si vraiment il y a des ratages, mais Mythbuster, un mythe sur l'Asie que t'aimerais clarifier.
Ah oui, alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que finalement le plus grand mythe sur l'Asie, c'est que l'Asie existe. C'est-à-dire que c'est un peu une construction occidentale. Quand on voit ce qu'on met dans le sac de l'Asie, quelquefois ça va du Kazakhstan jusqu'aux Philippines. T'as des pays qui ont des économies, des langues, des cultures, des religions qui sont entièrement différentes. Donc l'idée que l'Asie existe, c'est probablement le plus gros mythe qui se perpétue. Voilà, en bref.
Alors c'est bien vu. Si on parle d'APAC, d'Asie Pacifique, alors là on met l'Australie dans le sac.
Voilà, t'as l'Indonésie musulmane et t'as le Japon shinto-bouddhiste high-tech avec des seniors et un GDP de je sais pas combien par habitant. On parle juste pas de la même chose.
Ouais, donc il y a pas une Asie, il y a deux Asies. Déjà même à l'échec de la Chine, ouais. Dire la Chine, quand on connaît un peu la Chine.
Oui, oui, absolument.
Au final, la diversité du nord au sud de la Chine.
Moi, j'ai vécu principalement Chine, Japon, enfin Chine, principalement Chine et Japon, un peu Corée, Malaisie, Singapour. Bon, bah il y a des différences énormes, quoi. Tu vas à Singapour et ensuite tu vas même en Corée. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu retour vers le futur pour moi. Tu vois, j'arrivais du Japon super clean, high tech. Corée un peu plus rugueux, avec un peu leur high-tech à eux aussi. Puis j'arrive à Pékin et j'étais là, waouh, tu vois, c'est... Pékin 2005, c'était quelque chose. Alors, Pékin 2020, c'est autre chose.
Oui, bien sûr. Avec quand même des petites passerelles, bien sûr. Tu retrouves quand même des similitudes culturelles.
Ouais,
mais...
ouais. Ah bah tiens, similitudes culturelles, effectivement, l'Asie de l'Est, il y a des liens, donc ça aide. Alors, tu parlais des langues, je vais reboucler un peu tardif là-dessus. Moi, j'ai commencé par le japonais. Prononciation facile, grammaire difficile, caractère compliqué. Corée, prononciation relativement simple, un peu de guttural, bon, voilà. Caractère très simple, mais grammaire, finalement, pour moi, c'était quasiment la même chose que le japonais, donc la grammaire, ça m'a pas trop posé de problème avec le coréen. Par contre, Chine, prononciation cauchemar, quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal.
Prononciation plus les tons.
Les tons, voilà, c'est les tons, parce qu'on n'a pas du tout, les langues tonales, n'a pas beaucoup, français, c'est pas tonal. J'avais
c'est
du mal à distinguer les sons.
Atonal, on a une langue qui est extrêmement plate si on la compare à l'anglais.
Ouais, il y a quand même une certaine musicalité et un rythme quand même. Donc c'est
il faut... ça me semble moins prononcé que l'anglais par exemple.
Ouais, mais c'est plus subtil. Ça compte quand même. Sur la Chine, moi je sais que je m'y suis pas forcément super bien pris pour apprendre le chinois. au sens où je m'appuyais sur ce que je savais du japonais, parce que je connaissais pas mal de caractères. Donc ça m'a un peu servi de béquille au début, mais du coup j'avais l'habitude de marcher avec une béquille.
J'ai fait l'inverse, je suis parti du chinois pour le japonais.
C'est plus facile, je pense.
Bah, les caractères, ça aide beaucoup, on connaît déjà les caractères, ouais, mais ça peut être un succès.
Ah bon ? Bon, après, ça dépend du temps qu'on passe. Et puis, à quel moment, tu vois, je vais pas dire il y en a un qui est plus facile que l'autre, parce que j'avais plus d'énergie, d'enthousiasme pour apprendre les langues ça quand j'avais 19 ans, ou 20, ou 23, que quand je me suis mis au chinois à 28. Donc, bon, j'aurais pu... je pense que j'aurais dû m'attacher plus à la phonétique. Alors, si j'ai un conseil à donner pour les langues... c'est la prononciation, la prononciation.
Et même si tu dis ça sur le chinois, la prononciation et pourquoi pas laisser les caractères au début.
C'est possible aussi.
Et se mais concentrer sur le chinois oral.
La prononciation, c'est vraiment la clé parce que c'est le symptôme de ta capacité à comprendre. Si tu prononces mal, c'est que t'entends mal. Si t'entends mal, tu peux pas retenir bien. Donc la prononciation, c'est vraiment la clé. Et je pense que c'est pareil en musique. Moi, j'ai fait à travers les années un peu de musique ici et là. Je fais de la guitare, je fais de la flûte quand j'étais petit, enfin machin. Et j'ai vraiment progressé quand j'ai travaillé l'oreille à essayer de retranscrire des morceaux que j'aimais bien.
T'as pas tort. Et c'est peut-être un défaut français.
C'est un défaut de l'enseignement de la musique en général.
Sur les langues. Les Français.
On joue la partition.
Ouais.
Et jouer la partition, ça fait pas travailler l'oreille.
D'accord.
Voilà, ça fait travailler la mécanique.
Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les Français, je pense pas qu'on soit les meilleurs en termes de prononciation pour les langues étrangères, mais j'ai l'impression que parfois, les gens ne font pas l'effort. Il faut commencer par vraiment écouter ce que les natifs disent et arriver à le reproduire. Et tu t'entends des Français qui parlent, par exemple, l'anglais comme c'est du français. Donc, c'est assez intéressant ce que tu dis.
La prononciation n'est pas toujours ultra nécessaire pour se faire comprendre, mais en chinois, ça compte quand même pas mal. Mais c'est important pour mémoriser et clarifier les choses dans sa tête. Bon, j'ai une théorie plus vaste sur les liens entre les langues étrangères, la musique, le dessin et plein d'autres choses.
Tout ça pour un prochain épisode, je pense.
Voilà. Où c'est comprendre les composantes clés de la perception. Et c'est donc ce que je disais dans la musique. Le problème, c'est qu'on travaille pas l'oreille quand on joue la partition.
D'accord.
Voilà.
Une autre question. Comment résumer ton expérience Asie en une phrase ?
J'ai pris des notes. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah non, c'était là-dessus. J'avais mis, j'ai pas un truc formidable là-dessus, mais, qu'est-ce que j'avais mis? Bon, de mémoire, c'était, j'étais curieux et j'ai vu. C'était un peu ça, hein, parce que finalement, on n'a pas trop parlé, mais la raison pour laquelle je suis parti au Japon, c'est que quand je suis sorti d'école en 99, il y avait les boîtes de conseil, Altran et tout ça. J'avais été faire des interviews avec mon petit costume et j'avais vraiment l'impression d'être un numéro, quoi. Donc ça m'a pas trop plu. Je me suis dit, je préfère dans un endroit où finalement il n'y a pas trop de repères et on verra ce qu'on verra, quoi. Donc je suis parti. J'avais pas pensé partir aussi longtemps. J'ai passé quand même en gros 18 ans en Asie, quasiment toute ma vie d'adulte, quasiment toute ma vie pro. Donc, tu sais, on parle de third culture kid, TCK, pour les enfants qui sont nés avec leurs parents à l'étranger et tout ça. Donc, je suis un peu third culture adult. Je redécouvre en partie la France et les codes et tout ça. Mais je suis content d'être encore dans une boîte internationale, travailler de façon très mondiale et finalement pas être trop dans le moule de rien. Et j'ai fait un peu mon truc, quoi.
D'accord, bien, bien résumé. On va conclure juste, ça m'intéresse de savoir ce que tu as des livres à recommander sur l'Asie ou des ressources, ça peut être des blogs, des podcasts.
Alors, oui et non, c'est-à-dire sur l'Asie, les choses sont vite assez datées. Moi, c'est plutôt un truc qui donne un peu du recul sur les cultures qui peut être intéressant. J'en ai un que j'aime bien, c'est un livre américain, c'est pas sur l'Asie, mais c'est lié. Ça s'appelle The Culture Code. C'est par un psychanalyste français qui a bougé aux États-Unis qui s'appelle Clotaire Rapail qui conseille les boîtes sur leur positionnement marketing pour leurs produits en s'appuyant sur les codes culturels. Il a un modèle qui permet d'analyser ça en quelques mots pour donner un peu un goût du truc. Il explique par exemple la voiture aux États-Unis, c'est la voiture pour les grands espaces, plein de chevaux sous le capot, l'indépendance, la liberté. Et finalement, le concept qui est derrière, le code culturel pour la voiture, c'est le cheval. C'est le cow-boy sur son cheval. Alors qu'en France, la voiture, c'est pas du tout le cow-boy sur son cheval. En Allemagne, c'est pas du tout ça. Mmh. Et donc, comprendre qu'il y a des codes culturels différents d'un pays à l'autre, pour la même chose, les mêmes mots, c'est très important, parce que ça permet de comprendre pourquoi on se comprend pas, en fait. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma phrase, ma question favorite, c'est « What do you mean ?» Parce que on se parle, on utilise des mots qu'on pense en commun, mais en fait, on se comprend pas.
Le concept,
c'est très important. Et l'anglais, c'est d'ailleurs un piège, parce que quand tout le monde parle anglais, on a l'impression qu'on a les mêmes concepts derrière les mots. Tandis que quand on parle par l'intermédiaire d'un interprète, on est beaucoup plus prudent, parce qu'on voit bien que c'est pas la même chose. Donc, il faut se méfier des mots.
On s'en rend très bien compte avec les langues asiatiques, je trouve. De parler chinois, mm-hmm. au début, c'est-à-dire que tu vas faire passer ta pensée par un filtre différent, par une langue qui est grammaticalement très différente du français.
Ça peut.
Ouais. Et tu vas réaliser qu'au final, tu vas pas réussir à faire passer le sens comme tu l'as dans ton esprit.
C'est pas le même. Mais j'ai vu des cas étranges où des gens qui parlaient très bien une langue étrangère, asiatique ou pas, mais qui avaient pas du tout le code culturel derrière. Alors qu'en général, on l'apprend en apprenant la langue. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui sont, soit ils étaient pas dans le milieu ou ils sont pas intéressés, soit ils sont un peu imperméables à ça. Mm-hmm. Et donc souvent, on se retrouve avec pas des mauvaises volontés, mais de l'incompréhension parce qu'on a chacun nos référents. Et donc, what do you mean? C'est la meilleure question. Hein. C'est vraiment, faut pas hésiter à la poser.
Donc, the culture codes, je retrouverai voilà. ça pour mettre.
Pour parler un peu en quoi ça importe pour les gens qui s'intéressent à l'Asie et qui vont vivre là-bas, c'est par exemple, qu'est-ce que c'est un contrat? Mm-hmm. Voilà. Contrat, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand t'es un Français, un Chinois, un Américain, un Japonais? C'est pas du tout la même chose.
Vaste sujet.
Est-ce que tu vas, combien il y a de pages, combien il y a d'avocats, est-ce qu'on va respecter le contrat?
Surtout, oui.
En Chine, c'était un peu, c'est même encore pas mal, bon, c'est une poignée de main, le papier, on va pas le regarder, et on part du principe qu'on veut faire du business ensemble, et on va s'adapter parce qu'on sait que les circonstances vont changer. Mm-hmm. Au Japon, ça risque d'être beaucoup, on s'engage sur un truc et on respecte, mais ça peut être long pour tout définir. Aux États-Unis, bon, ton avocat cause à mon avocat, et il y a des clauses et tout machin, et des pénalités, et tout est un peu clair comme ça, quoi.
D'accord.
Donc, c'est important. Donc, à la fois dans les contrats, l'amitié, l'amour, le mariage pour les gens qui sont impliqués là-dedans aussi, c'est important, quoi. Qu'est-ce que c'est un ami en Chine? Qu'est-ce que c'est un mariage en Chine? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est quoi l'accord?
C'est des sujets super intéressants. Est-ce que, comme je vois que t'as des antisèches, est-ce qu'il y a une question que je dois te poser? Ou t'étais particulièrement fier de ta réponse?
Ah oui. écoute.
J'aime bien mettre les invités un peu sous pression.
Oui, oui. Alors, pas forcément fier, mais peut-être pour les gens qui s'intéressent ou qui commencent en Asie, qu'est-ce que j'aurais bien aimé savoir avant d'y aller? J'avais pas trop calculé que j'allais y rester aussi longtemps à travers les différents pays. J'ai suivi surtout ma curiosité, mes intérêts, donc j'ai toujours été assez enthousiaste avec ce que je faisais, même si ça a pas forcément été le plus ni le plus efficace, ni le plus mieux monétisé ou le plus net en termes de carrière. Bon, chacun mène sa barque. Hein. Un truc que j'aurais pu mieux faire, c'est quand j'arrive quelque part, me dire que je vais y rester un certain temps et me comporter comme si j'allais rester un certain temps. C'est-à-dire pas être un peu un oiseau sur la branche, vivre dans une valise, mais m'inscrire dans des trucs, faire des trucs régulièrement et être plus impliqué. Donc par exemple en Chine, j'aurais pu continuer à prendre des cours plus longtemps, j'aurais pu faire des activités plus régulièrement. J'aurais pu essayer de monter des trucs en me disant je vais être là longtemps. Mm-hmm. J'aurais pu, ça aurait été probablement mes meilleures affaires, acheter un appart à Pékin en 2005.
Voilà. Par exemple.
ça aurait pas été mal. Ouais. Parce que ça aurait probablement été mon meilleur investissement. Sinon, je regarde un peu les autres questions que t'as posées. Bon, t'as des trucs sur les vacances, des trucs comme ça. Bon, moi, je me balade pas mal avec mon boulot dans des endroits sympas, donc j'ai pas des énormes besoins de vacances. Quand j'ai du temps, je vais plutôt dans des endroits où je peux pas aller par le boulot. Donc j'étais dans des trucs un peu bizarres. Donc j'étais en Corée du Nord par exemple pendant une semaine, juste au moment des Jeux Olympiques de Pékin. Mm-hmm. Et j'ai vu donc les Mass Games nord-coréens. Donc, c'est intéressant.
Ouais.
Puis comme j'avais le contexte un peu sud-coréen, ce que j'avais habité, je parlais un peu. J'avais un regard un peu spécial là-bas.
Mm, tout à fait. Ouais.
C'était intéressant. Bon, j'ai été faire une méditation, retraite méditation. Ça, il y a des gens qui font maintenant ces temps-ci. Moi, je fais quelques années.
Ouais, c'est un peu sur ma liste hein, tous ces.
Ouais, non, il y a des trucs qui sont un peu plus démocratisés. Pour les endroits un peu relax, quand j'ai passé du temps à Hong Kong, j'ai habité à peu près 2 ans. Depuis Hong Kong, j'aime bien Bali, Yoga, sport, plein air, méditation un peu si t'aimes bien. J'ai été aussi à faire de la boxe thaï près de Phuket. J'ai un copain qui était un peu semi-pro là-bas et qui allait. Donc j'étais dans sa gym.
Stage de boxe thaï à Phuket.
Stage de boxe thaï à Phuket, ouais.
Jusqu'à la méditation à Bali, quoi. C'est...
Voilà. Le spectre est large. J'aime bien.
La dernière, on va essayer pour de boucler, conclure. Ouais. Comment hacker l'Asie? Est-ce que t'as une astuce, un gross hack?
Alors,
ça peut être une expérience, tu vois, une fois où t'as réussi à montrer une astuce pour hacker l'Asie.
Je pense que moi, ce qui m'a bien réussi, c'est faire des activités régulièrement avec des gars du coin. Ce que j'ai choisi, ce que j'aimais bien, c'est les arts martiaux. Donc, j'ai fait à la fois en Corée, au Japon et en Chine. Ça m'a permis de faire des copains locaux, d'apprendre à faire des blagues. Des vieilles blagues d'âge en japonais, pour ceux qui parlent, c'est oyaji gag, c'est un peu les blagues d'hommes d'âge mûr un peu foireuses.
D'accord.
Voilà, c'est tout un style. Quand t'as 23, 25 ans et que tu fais des blagues comme ça, les gens sont un peu surpris. Mais bon, enfin, je pense que c'est important dans chaque pays de trouver des choses avec lesquelles on se sent bien et des choses liées à... Moi, j'essayais de faire des trucs qu'on pouvait faire que là, quoi. Voilà. Mm-hmm. Donc, au Japon, un truc japonais, en Corée, un truc coréen, en Chine, un truc chinois, qui me plaît. Un autre truc qui m'a pas mal aidé.
Et ça semble assez évident ce que tu dis, mais à la fois, il y a assez peu de gens qui le font, les expatriés.
Faut oser pousser la porte.
En Asie, c'est pas forcément facile d'avoir des amis locaux. Ouais. Il y a une barrière culturelle de la langue, donc ça semble évident, mais c'est bien de le faire, quoi.
L'autre truc qui m'a bien réussi, c'est trouver des films locaux. Conseillé par des locaux. Moi, j'ai beaucoup progressé en langue, notamment en japonais, en regardant des films qui sont pas du tout connus à l'étranger, mais qui sont très bons, que m'avaient recommandé des gars du coin. Mm-hmm. J'avais un loueur de vidéo à qui il manquait un doigt, d'ailleurs, juste à côté de chez moi, et qui me conseillait aussi des trucs, et j'ai découvert des réalisateurs et des films que je connaissais pas.
Manquer un doigt au Japon, c'est...
Oui, je vais jamais trop poser la question, mais il avait des bons goûts de films, et à l'époque, c'était des cassettes, il y avait pas de sous-titres, et en fait...
Des cassettes.
Alors je pense qu'une bonne façon de bosser les langues, c'est par exemple de prendre, maintenant t'es en DVD ou en streaming et tout ça, tu vois la première fois le film avec les sous-titres pour bien le comprendre, et s'il te plaît, tu le revois avec les sous-titres dans la langue ou sans sous-titres, mm-hmm. et plusieurs fois. Et au fur et à mesure, ça va t'encourager, tu vas faire des associations dans ton esprit parce que t'as le contexte et t'as un truc qui te plaît. C'est très important de trouver un truc qui te plaît, en fait.
Bien sûr. Et c'est difficile. Mm-hmm.
Ouais. J'ai deux, trois autres trucs j'ai noté, je vais les donner aussi au passage, parce que t'avais dit des conseils de bouquins. J'en ai pas trop sur l'Asie, mais j'ai d'autres bouquins que j'aime bien et que je trouve qui sont intéressants à lire. Il y en a un qui est fait par Scott Adams, c'est le gars de Dilbert, qui fait des petites BD sur la vie au bureau. Mm-hmm. Son bouquin, en fait, ça n'a rien à voir avec Dilbert, ça s'appelle « How to fail at almost everything and still win big ». Et c'est une vision très intéressante sur l'idée que tu n'as pas forcément besoin d'être le meilleur du monde dans un truc très, très pointu, mais tu peux, en fait, en combinant des compétences moyennes, faire un truc très unique. Donc, par exemple, moi, je suis pas le meilleur conférencier, je suis pas celui qui connaît le mieux l'Asie, je suis pas celui qui connaît mieux la tech, mais par contre, si tu veux quelqu'un qui te parle de tech en Asie, je me débrouille bien. Voilà. Bon, comme exemple. Donc ça, c'est assez rassurant sur l'idée qu'il y a quand même... Finalement, c'est un peu... Ça revient au positionnement stratégique. C'est quoi ton positionnement individuel?
Mm-hmm. Et trouver sa spécialité.
Ouais, il est très... Et lui, par exemple...
Au croisement de deux domaines.
De deux ou trois. Lui, il dit par exemple, c'est pas le meilleur dessinateur, c'est pas le meilleur humoriste, c'est pas le meilleur businessman, mais il a un MBA, il dessine pas mal, et il a pas mal d'humour, et donc
Ce type est très marrant. Je crois qu'il il y a des podcasts où il est passé.
Il fait plein de podcasts. Il écrit. C'est un des rares gars.
Il a son propre podcast sur YouTube, il me semble.
Alors c'est un peu controversé aussi parce que c'est un des rares gars qui avait prédit que Trump serait élu. Et il a documenté quasiment semaine après semaine, jour après jour, pendant les élections et même un peu avant. Que Trump serait élu.
D'accord.
Moi, j'avais suivi ça. Je crois qu'il y a
un passage chez Tim Ferriss, le podcast de Tim Ferriss, super intéressant.
Oui, il a été aussi. Ouais. J'ai deux autres bouquins à conseiller. Alors, donc, j'avais dit le Culture Code. J'en ai un autre qui est intéressant pour survivre dans un monde de fake news et de sophistes. C'est un bouquin de Schopenhauer, tout petit, mm-hmm. qui s'appelle L'art de la controverse. C'est un petit manuel d'autodéfense rhétorique.
D'accord.
C'est, je pense, un des bouquins à lire et à relire. Je l'ai relu, moi, 8 fois. Il est tout petit, hein, mais est gratuit d'ailleurs, il y a 150 ans, c'est domaine public. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le lire. Et ensuite, un autre qui est très intéressant pour les gens qui se posent des questions sur que la vie est dure, ça s'appelle Learned Optimism, par Martin Seligman. C'est comment comprendre le point de vue de l'optimiste et comment comprendre comment chacun s'explique le monde et les circonstances de ce qui t'arrive. Donc les pessimistes ont tendance à penser qu'il leur arrive des tas de problèmes tout le temps, que c'est de leur faute, que c'est dans tous les domaines et c'est tout le temps. Alors que les optimistes, c'est l'inverse. Ils pensent que quand un problème leur arrive, parce qu'il leur arrive aussi des problèmes, ils pensent que c'est pas de leur faute. Ils pensent que c'est très, c'est maintenant et c'est juste dans tel domaine. Mm-hmm. Donc ils généralisent pas. Alors évidemment, ça peut te rendre, quand t'es extrêmement optimiste, ça peut te rendre insupportable parce que c'est jamais de ta faute. Mais c'est intéressant pour s'auto un peu analyser et arriver à corriger un peu son état d'esprit. Et le dernier, c'est, j'ai pas un livre, il me semble particulièrement là-dessus. C'est le concept de growth mindset, l'esprit, état d'esprit de croissance. Moi, j'étais bloqué, je pense, jusqu'à autour de 25 ans dans un état d'esprit fixe, parce qu'on m'avait répété quand j'étais jeune, j'étais un peu en avance, je me débrouillais bien à l'école et tout ça, notamment en maths, discipline reine en France. On m'avait dit, oh, voilà, t'es intelligent, petit génie et tout ça. Et je pense que ça m'a rendu, ça m'a donné un état d'esprit fixe, parce que soit j'arrivais bien à faire quelque chose, et c'est normal parce que j'étais intelligent. Soit j'y arrivais pas bien et dans ce cas-là, j'étais pas doué. Mm-hmm. Et donc ça t'empêche de faire des efforts en fait, parce que soit c'est facile et donc pas d'efforts, mm-hmm. soit c'est pas facile et ça sert à rien parce que
t'es pas bon. Il y a pas de challenge à surmonter. Et...
Voilà, j'étais pas dans un état d'esprit que je peux tout apprendre. Et ce que la vie m'a appris, c'est que étonnamment, on peut apprendre en gros quasiment tout. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qu'on n'identifie pas comme des compétences qui sont des compétences. Par exemple, bon, on prend un exemple simple, on va parler de parler en public, être timide, et ben ça se travaille. Voilà. Mm-hmm. C'est pas compliqué, enfin c'est pas très compliqué. Alors évidemment, mieux t'es guidé, mieux ça marche, et plus t'as un feedback loop efficace, mieux ça marche. Mais ça va très au-delà de ça. Il y a des choses bon, plus profondes qu'on pourrait discuter une autre fois, mais voilà. Donc état d'esprit de croissance, j'encourage tout le monde à s'y intéresser, à comprendre qu'on peut vraiment tout apprendre. Moi j'ai appris japonais, coréen, chinois, passé 20 ans, quoi. Il y en a qui te disent, faut être jeune, ça, faut être doué pour les langues. Bah, bon, enfin, bon, doué pour les langues, ça dépend du travail. Je pense que d'ailleurs, par rapport au temps que j'y ai passé, je suis probablement pas suffisamment bon.
Il faut à la fois apprendre et continuer à apprendre, hein. Je pense que c'est vrai tout le long de la vie et de plus en plus en vieillissant. C'est vraiment la différence, c'est que les gens qui continuent à faire cet effort, même à un âge avancé.
Je m'essaye à des choses. Tu reçois ma newsletter, je crois, donc tu sais que je m'essaye de temps en temps à des choses nouvelles, pas toujours.
Tu fais une newsletter qui est super intéressante. Comment ça va peut-être nous, enfin, c'est d'autres choses à rajouter, mais ça va nous amener à la conclusion.
Ouais, très bien.
Peux peut-être nous dire un peu comment te contacter, comment s'inscrire à ta newsletter, si possible. Ça parle de tout ce que tu fais, de ton activité professionnelle, de tes films préférés, de la dernière série que tu as regardée. Mais je la lis avec plaisir, elle est très bien écrite.
C'est une newsletter assez perso, où je raconte un peu ce qui m'intéresse, principalement. Quelquefois, ce qui ne m'intéresse pas et qui m'énerve.
Garde un petit côté français.
Je trouve ça intéressant de... Quelquefois, en fait, bon, tu peux toujours dire qu'un truc te plaît pas et quand c'est consensuel, mais quand c'est pas consensuel, c'est déjà un peu plus risqué. Quelquefois, je prends des risques. Je sais même pas trop comment s'inscrire, parce que j'ai inscrit mes contacts. Je pense que c'est Benjamin Joff sur l'outil s'appelle Substack. Donc Substack, Benjamin Joff, pour donner le lien, pour j'en pourrais voir. Et sinon, pour me contacter, en ce moment, mon email ben@sosv.com. C'est mon tout nouveau parce qu'avant j'étais sur hacks.co. Twitter, je suis actif de temps en temps. Benjamin Joff aussi. Et puis voilà, je pense que ça c'est bien.
Joff, J-O-2-F-E, c'est ça.
Voilà.
Ok, super. Bon, merci beaucoup.
Merci à toi.
Salut.
Ciao.
Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut !